Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La plage abandonnée par Brigitte Bardot, celle de Saint-Tropez. Nous serons en direct dès le début de ce journal auprès de ses admirateurs qui rendent hommage depuis hier à cette icône du cinéma disparue à 91 ans, symbole de la femme libre et engagée pour la défense des animaux. Le plan grand froid enfin activé en région parisienne. Le dispositif vise à protéger les sans-abri et Claude Puel, attendu à Nice ce matin, successeur de Francaise sur le banc des Aiglons.
Émotion toujours très vive ce matin à la Madrague.
Là où Brigitte Bardot est morte hier à 91 ans, résidence de Saint-Tropez, où elle avait choisi de s'installer depuis les années 50. Sur place, en direct ce matin, Amélie Courtet. Vous êtes, Amélie, devant la Madrague où beaucoup de Tropéziens sont venus se recueillir depuis hier.
Oui, protégée encore ce matin par des barrières et gardée par des policiers. Nous sommes ici à quelques mètres seulement de sa villa, la Madrague, acquise à la fin des années 50. Célèbre résidence où Bébé est décédé hier à 91 ans dans les bras de son mari, Bernard Dormal. Ici, des bougies, des fleurs, des peluches et des portraits en noir et blanc de l'actrice jeune s'accumulent au pied d'un muret. Depuis hier après-midi jusque tard dans la nuit, les fans de Brigitte Bardot se sont succédés pour prier, rendre hommage à cette star mondiale et locale ici à Saint-Tropez, car c'est elle qui a créé le prestige de la ville, saluait hier un Tropézien. Une grande femme irremplaçable, réagissait encore d'autres habitants, citant à tour de rôle ses films et Dieu créa la femme, le mépris, son combat pour la cause animale, admiratif enfin de son caractère bien trempé. Sur un bouquet de roses, un dernier mot, chère Brigitte, je t'aime pour toujours.
Amélie Courtet, en direct de Saint-Tropez ce matin pour RMC, Brigitte Bardot. C'était donc une voix, un regard, un visage à la une de toute la presse ce matin, icône du cinéma, de la mode, mais aussi de la chanson. 80 titres à son actif que ces Strasbourgeois ne sont pas prêts d'oublier.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Oui, c'est bon, je connais. Bah oui, je l'aimais bien, oui, forcément, bah, ça fait partie de notre culture musicale française.
Hein. Elle était incontournable, surtout au niveau de ses musiques. Moi, j'adorais ses musiques. La chanson qui s'appelait Moi, je joue. Moi, je joue. Moi, je joue, je contre-joue.
On ne reconnaît plus personne en Harley Davidson. Et puis voilà.
Et nous pleurons une légende du siècle, dit Emmanuel Macron, qui rend hommage à celle qui fut le visage de Marianne, symbole de la libération des mœurs, de l'émancipation de la femme. Brigitte Bardot a bousculé les codes de sa génération, affranchie, engagée aussi pour la protection des animaux avec la création de sa fondation, un demi-siècle de combat acharné avec un héritage qui restera. Philippine Boulet a pu s'en rendre compte dans un centre de la SPA de région parisienne.
Abigail est venue à la SPA de Gennevilliers pour adopter un chien.
Et le papa a enfin dit oui.
Pour sa famille, la disparition de Brigitte Bardot a fait l'effet d'un déclic.
On regardait les images de Brigitte Bardot et oui, c'est parti de là du coup de regarder sur la SPA.
Une autre visiteuse, Josette, pense recueillir un chat. Elle l'affirme, sans l'engagement de Brigitte Bardot, la cause animale aurait pu tomber dans l'oubli.
Enfin, pour moi, c'est grâce à elle. Peut-être que la SPA, ça serait... Elle serait peut-être même pas en vie, enfin on sait pas.
Stéphane Lamarre a lui fondé une association de protection animale. Il s'est inspiré de l'engagement de Brigitte Bardot.
C'est une personne qui m'a mis le pied à l'étrier. Je l'ai découvert à la télévision lorsque j'avais 10 ans, en 1992. Et depuis ce temps-là, je marche sur ses pas. Son combat était sincère, réel, efficace. C'est ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'a touché. Et je me suis dit, il faut que je m'engage moi aussi.
40 ans après sa création, la Fondation Brigitte Bardot compte aujourd'hui 4 refuges et mène des actions dans plus de 70 pays.
Et réaction également de la classe politique du centre à l'extrême droite dont elle était proche. Le RN a salué hier une ardente patriote.
Vous avez raison de souligner du centre à l'extrême droite, puisqu'à part Émeric Caron, il y a eu assez peu de réactions à gauche. Émeric Caron qui salue son engagement pour la cause animale. Il y a aussi ce volet de Brigitte Bardot, bien sûr, ses engagements politiques. Elle a quand même rencontré tous les présidents de la 5e. Vos souvenirs avec Brigitte Bardot au 32-16, n'hésitez pas ce matin. Il est 7h05 et le plan grand froid est activé en région parisienne.
Et ce, en raison des températures particulièrement froides, voire même négatives, la nuit qui touche la capitale et qui devrait persister. La préfecture a donc répondu favorablement à la mairie de Paris qui réclamait la mise en place de ce dispositif depuis plusieurs jours. Un plan désormais établi dans une trentaine de départements avec l'objectif clair, Lucas Laubert, de protéger les plus démunis.
Oui, un préfet peut activer ce plan lorsque les températures sont particulièrement basses et que le froid s'installe pour une longue durée. Dès son entrée en vigueur, une série de mesures est appliquée pour protéger les plus fragiles, notamment les sans-abri. Les horaires des centres d'accueil de jour sont étendus, plus tôt le matin et plus tard le soir. Des places d'hébergement d'urgence sont aussi débloquées. Exemple à Paris, où 60 femmes isolées sont accueillies dès aujourd'hui dans des salles de la préfecture de région. Des places d'hôtel vont aussi être débloquées pour des familles, ainsi qu'un gymnase en Seine-Saint-Denis. Autre mesure, le renforcement des maraudes avec plus de moyens humains, mais aussi pour le 115, numéro d'urgence, avec plus de personnes pour répondre aux appels. Enfin, des consignes de vigilance sont adressées aux policiers et aux pompiers pour mieux détecter et protéger les personnes en danger.
Une nouveauté ce lundi, les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h deviennent un délit, passible désormais de 3 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Et puis un chiffre, 4 208, c'est le nombre de condamnations pour usurpation d'identité prononcées en 2024. Selon le ministère de la Justice, information que vous révèle RMC ce matin, on est loin des 200 000 victimes de ce fléau par an. On en reparlera dans le journal de 7h30.
200 000 victimes, 4000 condamnations, ce ratio est effrayant. Vous avez été victime d'usurpation d'identité, vous prenez la parole ce matin, on a besoin de vos témoignages au 32-16. La première prise de parole de Thierry Breton depuis son interdiction de séjour prononcée par les États-Unis.
Visé avec 4 autres personnes par l'administration Trump pour avoir été l'un des fers de lance de la régulation des grandes plateformes technologiques, l'ancien commissaire européen au marché intérieur s'est exprimé hier soir sur TF1.
Au-delà de ma personne, c'est l'Europe. C'est l'Europe évidemment qui est atteinte et qui est touchée. On m'interdit d'aller aux États-Unis, tout simplement parce que j'ai présenté, au nom de la Commission, au nom du Collège des commissaires, un texte de loi pour protéger nous-mêmes par rapport à toutes les déviances. On ne peut pas nous imposer de changer les lois que nous avons démocratiquement votées. Tout ça pour faire plaisir à qui ? Pour faire plaisir aux GAFAM, pour faire plaisir aux grandes plateformes américaines ? Eh bien non, il faut se lever, il faut résister.
Une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier, annonce d'Emmanuel Macron après la rencontre cette nuit aux États-Unis entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. De nombreux progrès ont été faits, assure le président américain qui évoque un possible accord de paix entre l'Ukraine et la Russie dans les semaines à venir. L'Algérie qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, victoire 1-0 hier soir face au Burkina Faso. Le Maroc va tenter d'en faire autant ce soir, le pays hôte de la compétition opposé à la Zambie, coup d'envoi 20h à vivre sur RMC. Puis en Ligue 1, Francaise ne sera pas à la reprise de l'entraînement ce matin à Nice. Le coach Arthur Perrault a décidé, en accord avec son club, de quitter ses fonctions.
Oui, cette fois la séparation est bien actée avec un bilan de 9 défaites sur ses 10 derniers matchs. Francaise quitte Nice. Ces dernières semaines, après une énième contre-performance en Coupe d'Europe, il avait déjà suggéré qu'il pouvait être le fusible. Le technicien avait même présenté sa démission avant de se rétracter. Cette fois, la décision a été prise de concert avec notamment le président du club, Jean-Pierre Rivère. Arrivé il y a un an et demi en provenance de Lens, Aize laisse le club à la 13e place du classement. Claude Puel va prendre sa place, celui qui a dirigé l'équipe entre 2012 et 2016 est attendu aujourd'hui à la reprise de l'entraînement. Il sera accompagné de Julien Sablé, actuel directeur du centre de formation, un binôme de fidèles de l'OGC Nice pour enfin sortir de la crise.
Et Toulouse, en rugby, qui reprend la tête du top 14 en très grande forme hier soir face à La Rochelle, victoire 60-14.
Merci beaucoup Thibaut Texer, vous restez bien sur RMC, vous intervenez quand vous le souhaitez au 32-16 sur ces sujets, sur Brigitte Bardot bien sûr, mais vous avez entendu d'autres sujets qui font l'actualité, les usurpations d'identité notamment, avec 4206 plaintes qui aboutissent seulement à une condamnation, 200 000 victimes par an, c'est colossal. Vous réagissez au 32-16 ou sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424, il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h,
Apolline Matin.
Et Martin, on a des réactions justement ce matin sur le WhatsApp RMC.
Et beaucoup de réactions, effectivement, notamment à ce chiffre RMC que vous évoquiez, Mathieu. 4208 condamnations pour usurpation d'identité en 2024. Pour 200 000 victimes chaque année, 4208 condamnations seulement. Romain nous écrit sur WhatsApp 0612 424 424. J'ai appris au bout de 2 ans l'utilisation de mon permis par quelqu'un d'autre. J'ai souhaité porter plainte, impossible, car il fallait que je prouve à la préfecture que ce n'était pas moi au volant avant de pouvoir porter plainte. C'était il y a 2 ans. je n'ai toujours pas réussi à porter plainte. Voilà ce que nous écrit Romain sur WhatsApp. Et vous, est-ce que vous avez déjà été victime d'usurpation d'identité, des vols de données personnelles, des vols d'argent également? Venez témoigner ce matin, on attend vos messages et on attend vos appels également au 3216. Vous réagissez aussi à cet autre sujet, les grands excès de vitesse qui deviennent des délits à partir d'aujourd'hui, plus de 50 km/h, et vous êtes passible de 3 mois de prison, 3 750 € d'amende et inscription au casier judiciaire. Le montant de l'amende n'est pas assez dissuasif, nous écrit Kim sur WhatsApp. Cricri, elle, de son côté, écrit que ce sont souvent les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. J'ai peur que ça ne change rien à leur conduite, malheureusement. Et vous, 3216 et WhatsApp 0612 424 424.
Et puis face à la pénurie de médecins, l'État élargit les missions des infirmiers. Consultations, prescriptions, vaccination, une réforme attendue depuis des années. Bonjour Thierry Amourou.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du syndicat national des infirmiers. Qu'est-ce que ça change pour les infirmiers, pour les patients surtout? Vous nous répondez dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h13, vous êtes sur RMC et RMC Story. Les 640 000 infirmières et infirmiers de France peuvent en faire plus depuis vendredi. Un décret paru au journal officiel élargit le champ de leur mission à prescrire certains soins, certains médicaments, mener des consultations et même poser un premier diagnostic. Bonjour Thierry Amourou.
Bonjour.
Vous êtes donc porte-parole du syndicat national des infirmiers. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les patients?
Ben, il faut bien comprendre que ce décret du 24 décembre, c'est un cadeau de Noël pour l'ensemble des Français, parce que ça va fluidifier les parcours de soins. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des retards liés aux difficultés, et ces retards de prise en charge, ben, ça peut se traduire en perte de chance. Par exemple, dans ce décalage entre ce que l'on est et ce que l'on avait le droit de faire jusque-là, on était un peu coincé sur des choses que l'on pratique.
C'est-à-dire que ça impliquait un ralentissement pour le patient dans son parcours de soins. Aujourd'hui, on peut aller plus vite et donc être plus efficace. Ce qui veut dire quoi, Thierry Amourou, que jusqu'à présent, les infirmières et infirmiers, vous étiez sous-employés?
On était bridés. Il y avait un décalage. Les textes qui nous ont rédigés datent de 2004, donc on avait 20 ans de retard par rapport aux pratiques médicales, alors que nous avons eu une formation, par exemple, sur le plaie cicatrisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'on voyait un problème chez un patient, au lieu de le traiter directement, ce pour quoi on a été formé, on était obligé de renvoyer sur une consultation médicale pour attester de ce que l'on avait vu. Donc c'est un peu une aberration.
Donc attendre d'avoir un rendez-vous, de solutionner la question des déserts médicaux, et suivez mon regard, on s'en sort pas. Alors est-ce que ce décret va assez loin, Thierry Amourou? Est-ce qu'on aurait pu encore élargir un peu plus vos missions?
Non, ça correspond bien aux attentes et à ce qui se pratique dans les autres pays, en particulier en termes de prévention et de santé publique, parce que c'est pas le tout d'intervenir une fois que le problème a été identifié. Si on peut traiter la cause avant, c'est quand même mieux. Et on a un grand retard de prévention en France par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est une vraie avancée.
Et qu'est-ce qui reste de la prérogative du médecin aujourd'hui?
Ah ben, tous les diagnostics médicaux. Les diagnostics infirmiers sont différents. C'est plus sur les plaies cicatrisation, sur
la quoi, prévention. Expliquez-moi, c'est quoi ce qu'on appelle un diagnostic infirmier? Vous allez diagnostiquer quoi?
Alors, ben, par exemple, si on constate un ulcère de jambe, eh bien, on va pouvoir intervenir directement, alors qu'aujourd'hui, il fallait passer par une consultation médicale. On va pas faire de diagnostic de grosses pathologies, etc. On est là pour les problèmes de santé qui correspondent déjà à ce que l'on sait faire.
Alors, on le fait, ça, j'entends aussi complètement ce que vous expliquez, c'est-à-dire que vous êtes formé pour ces soins-là. Mais est-ce qu'on ne crée pas un flou, finalement, entre vous et les médecins? Est-ce qu'il y a un risque de se marcher dessus, de se contredire même parfois?
Pas du tout. Je vous donne un autre exemple par rapport aux médicaments. Moi, je suis hospitalier et un patient hospitalisé, on lui demande de ne pas venir avec son traitement personnel. Et si au cours de son hospitalisation, il devient algique,
il devient quoi, pardon?
Il devient algique. Il est douloureux.
D'accord.
Si je suis de nuit ou de week-end et que j'ai pas de prescription médicale, je vais devoir biper l'interne de garde de l'hôpital.
Oui.
Qui va m'appeler tout de suite pour voir quel est le problème. Et quand je vais lui dire que c'est pour un doliprane, du paracétamol, elle me dire bon, ben, t'es gentil, mais il faut que je traite 5-6 urgences avant de venir pour ce problème basique.
Ben et oui. Donc, pendant ce temps-là, vous pourrez intervenir directement. C'est donc aussi ce gain de temps, enfin, d'efficacité, tout simplement, dans le système, y compris hospitalier, si je vous suis bien, Thierry Amouroux.
Oui.
Est-ce que c'est une solution d'avenir? Je veux dire, la question des déserts médicaux, on en parle assez régulièrement pour savoir qu'on manque de médecins. On sait aussi que vous pourriez avoir un rôle à jouer face au vieillissement de la population. Je veux dire, à l'avenir, il faut que les infirmiers et infirmières soient dans les starting blocks.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a, vous avez 140 000 infirmières libérales. Et ce sont les dernières professionnelles de santé à aller au domicile des patients, donc on peut identifier beaucoup plus facilement des problèmes bien avant qu'ils se déclarent en maladie. Et donc c'est une vraie avancée parce que des infirmières, ben il y en a sur tout le territoire. Et donc ben c'est du temps gagné et du temps clinique de gagner. C'est-à-dire que ça peut permettre de gagner, d'éviter des passages aux urgences si c'est des petites choses que nous on peut traiter sur le terrain. Voilà. Et c'est aussi la capacité d'orientation. Par exemple, vous avez une infirmière scolaire qui voit un élève qui a un problème de vue, d'audition. On va pouvoir orienter directement vers le professionnel concerné.
Et pourquoi elle le faisait pas avant?
Aux parents de prendre rendez-vous avec le médecin pour.
Bah elle le faisait déjà, Thierry Amouroux, ça, non?
Comment?
Elle le faisait déjà, ça, l'infirmière de. Vous parliez des infirmières scolaires, là?
Alors, l'infirmière scolaire signale le problème à la famille en demandant à la famille de prendre rendez-vous avec un médecin pour que le médecin fasse une ordonnance pour contacter le professionnel de santé concerné, orthoptiste, orthophoniste.
Là, on pourra aller directement chez le spécialiste en passant par l'infirmière, si je vous suis.
Voilà.
Ok. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit élargi aussi à d'autres professions médicales, d'autres que les infirmiers? Je pense aux aides-soignants, aux auxiliaires de puériculture, par exemple.
Alors, c'est pas le même niveau de formation.
Une infirmière, de qualification, non, on est d'accord.
Une infirmière, elle a une licence, elle est formée en 3 ans après le bac. Une aide-soignante est formée en 10 mois.
Non, mais j'entends bien, mais face aux besoins, face à certains soins qu'on peut appliquer sur ce gain de temps, vous êtes plutôt réservé sur cette question-là, si j'ai bien compris votre réponse.
C'est par rapport à la formation, c'est-à-dire que.
Non, bien sûr, mais oui, mais si on allait par là, vous êtes aussi moins formé que les médecins, a priori, Thierry Amouroux.
Bien sûr, mais on ne va pas remplacer des médecins.
On va les compléter.
On va pouvoir faire ce pour quoi on a été formé, ce pour lesquels, au niveau international, on a toutes les compétences reconnues depuis la nuit des temps.
Et c'est ce qui fait que ça se rapproche d'autres pays, des pays voisins notamment. Alors, est-ce que, une dernière question quand même, on va passer à la caisse, Thierry Amouroux, est-ce que plus de missions, ça signifie aussi plus d'argent? Alors, plus de revenus, bien entendu, s'il y a plus d'actes, ça, on peut le comprendre, mais face aux responsabilités aussi, est-ce que vous appelez à une revalorisation de vos actes?
Alors, c'est prévu. La loi a prévu une revalorisation à la fois des infirmières salariées et des actes des infirmières libérales. Ça va faire l'objet d'autres discussions et d'autres textes. Mais il faut bien comprendre que les infirmières en France sont sous-payées, moins 10% sous le salaire infirmier européen. Donc, il y a un vrai retard. Les infirmières libérales n'ont pas été revalorisées depuis une quinzaine d'années.
Il y a un vrai sujet sur la rémunération, mais si j'ai bien compris, ce sera l'objet de négociations à suivre. Et on suivra. Thierry Amouroux, merci beaucoup. J'attends d'ailleurs les appels d'infirmiers et infirmières libéraux, hospitaliers. Vous témoignez ce matin au 32-16 sur cette information. Merci Thierry Amouroux d'avoir réagi, décrypté surtout cette information pour nos auditeurs. Vous êtes porte-parole du Syndicat National des Infirmiers. Il est 7h21 sur RMC et dans un instant, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui va nous rappeler la très longue histoire du baiser. On compte ça en millions d'années, figurez-vous. Puis je vous attends au 32-16 d'RMC. Ne bougez pas, on se retrouve dans un peu plus de 60 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC, RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est tous les jours avec Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui nous parle ce matin du premier baiser de l'histoire.
On révise les classiques.
Arthur, Carlos évidemment. D'après des scientifiques de l'université d'Oxford, le baiser sur la bouche se pratiquait déjà il y a 2 100 000 années. Et pour vous s'embrasser, c'est la raison d'être de l'humanité.
Et oui, cette étude en est la preuve, hein, puisqu'elle montre que l'ancêtre commun de l'homme et du grand singe pratiquait déjà le baiser sur la bouche. S'embrasser, ça a toujours symbolisé ce que l'homme a de meilleur en lui, l'amitié, la loyauté et bien sûr l'amour.
Et avant cette étude, on ne savait pas depuis quand le baiser existait.
Si, mais on pensait que c'était beaucoup plus récent. On a des fresques égyptiennes d'il y a 4000 ans où on voit des gens se faire des bisous, donc a priori, c'est que c'était déjà agréable. Et sous l'Empire romain, ça va devenir un acte très politique. À Rome, vous embrassiez sur la bouche les gens qui faisaient partie de votre famille, mais aussi les gens qui appartenaient à la même classe sociale que vous. Donc par exemple, si vous étiez sénateur, vous embrassiez tous les sénateurs que vous croisiez dans la rue.
Et comment ça va évoluer ?
Alors au Moyen-Âge, clairement, ça se calme un peu, mais le baiser ne disparaît pas. C'est toujours un peu politique, puisque c'était un acte qui symbolisait la loyauté, la fidélité, et ça se pratiquait dans les ordres religieux. Prenez par exemple l'ordre des Templiers, c'était un ordre de moines soldats. Quand vous entriez dans cet ordre, il y avait un rituel d'admission. Il fallait se déshabiller et une fois nu, tous les autres membres de l'ordre venaient vous faire des bisous, mais pas dans n'importe quel ordre. D'abord sur les fesses, ensuite sur la bouche et enfin sur le nombril. Et là, vous étiez admis.
J'aurais pas choisi cet ordre-là. Mais bon, quand est-ce qu'on commence à avoir une connotation sexuelle autour du bisou ?
Alors, ça commence à partir du 18e siècle. Hein, le 18e, c'est le siècle de la galanterie, du libertinage. Maintenant, quand on s'embrasse sur la bouche, c'est évidemment pour devenir amant. C'est aussi à cette époque que le mot « baiser » prend un autre sens que Mathieu, je n'ai pas besoin de vous expliquer.
Alors le baiser deviendra aussi un symbole, évidemment, du cinéma.
Bah bien sûr, un des tout premiers films réalisés, ça s'appelait d'ailleurs The Kiss, hein, le bisou en anglais. Ça date de 1896, c'était réalisé d'ailleurs par les inventeurs du cinéma, les frères Lumière. Alors c'était un film très court, hein, à peine une minute, et la dernière séquence, c'était un baiser entre deux amants, le tout premier baiser du cinéma, Mathieu.
The Kiss, et après on a parlé de French Kiss.
Oui, les Américains ont inventé cette expression puisque pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des soldats américains sont venus en France pour faire la guerre et ils vont découvrir les Françaises. Et au moment de les embrasser, ces Françaises, surprise, elles mettent la langue, ce qui évidemment ne se pratiquait pas du tout aux États-Unis. Donc, quand les soldats sont rentrés en Amérique, ils ont exporté la pratique et ils lui ont donné le nom de son pays d'origine, le French Kiss.
Mais c'est si récent que ça, en fait, ça a vraiment c'est le débarquement, ouais. Quoi. C'est...
Ouais, ouais,
ouais. Le French Kiss.
La pro, oui, oui.
Et le baiser de cinéma, évidemment, mythique. 7h25, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qu'on retrouve à tout moment en podcast sur l'application RMC. Allez, on file tout de suite au 32-16, retrouver Fadela, qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Fadela.
Oui, bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes infirmière libérale. On va parler de votre métier et de ses nouvelles prérogatives, mais vous bossez là cette semaine, Fadela ?
Là, je suis en tournée, ouais.
Là, vous êtes en tournée. On est le 29 décembre et vous êtes sur le pont.
Oui.
Ben, merci beaucoup. Merci pour vos patients. Il y a des patients qui vous attendent. Alors, l'émission des infirmiers étendue, vous allez pouvoir prescrire, vous allez pouvoir poser un diagnostic infirmier. Fadela, vous dites non, c'était pas la priorité que d'élargir les responsabilités des infirmiers.
Non. Alors, à mes yeux, non. Je suis infirmière depuis 25 ans. En libéral depuis 5 ans. Et à mes yeux, la priorité, mais vraiment, hein, parce qu'on nous a déjà ajouté des compétences, entre guillemets, des missions. On nous demande aussi de faire des certificats de décès pour lesquels on a eu des formations, etc. Moi, j'ai refusé, parce que je ne suis pas là pour faire ça. Ce n'est pas mon rôle. Et je suis assez réac par rapport à cet élargissement du champ de compétences parce que, comme je disais hier à ma fille quand on l'a vue à la télé, ben, ça ne remplit pas le frigo et ça ne paie pas les charges.
Ah ben vous avez entendu votre porte-parole, Thierry Mourou disait à l'instant, c'est prévu la revalorisation. Alors je n'ai pas le montant, hein, elle doit être négociée maintenant, Fadela. Mais effectivement, vous n'avez pas été augmentée depuis combien de temps, Fadela ?
2009. En libéral, 2009. L'acte, l'AMI, c'est une cotation de l'acte. Il est à 3,15 €. C'est-à-dire que quand on fait une injection, c'est 3,15 €.
Alors, quand vous faites une injection, c'est-à-dire que vous, Fadela, quand vous vous déplacez chez quelqu'un pour faire une injection, c'est pour 3,15 €.
C'est ça. Il y a le déplacement qui est à 2 €.
D'accord.
Et quelqu'un. Voilà.
D'accord. Et, non, mais il y a urgence à revaloriser, ça c'est ce qu'on disait à l'instant, vous l'avez entendu, hein, je pense, Fadela, avec Thierry Amourou, sur la revalorisation des actes. Mais en revanche, sur les responsabilités, en imaginant qu'on vous revalorise comme vous devriez l'être, Fadela, sur ces responsabilités-là, vous ne vous les sentez pas ? C'est pas votre métier, vous avez dit sur les certificats de décès, par exemple, ce qui est une chose un peu particulière, j'imagine.
On a déjà un champ de compétences assez large.
Non, mais les vaccins, les prescriptions, on gagne pas du temps par rapport à cette problématique des déserts médicaux dont on parle si souvent.
Alors, franchement, le désert médical, il y est, en Ariège, dans le bassin du Comminges, là où j'ai mon cabinet, il y est. Mais après, c'est pas à l'infirmière de suyer les plâtres d'un mal calcul. Depuis 30 ans.
D'une mauvaise organisation du système de santé. C'est pas aux infirmiers d'essuyer les plâtres. Merci, Fadela, d'avoir réagi. L'urgence, c'est la revalorisation des actes. Alors, Thierry Amourou l'a dit, hein, ça fait partie, c'est prévu. Reste à savoir de combien. C'est à négocier encore. Mais merci, Fadela, d'avoir témoigné avec précision depuis l'Ariège ce matin, infirmière libérale depuis 25 ans. Si j'ai bien retenu ce que m'a dit Fadela en début d'intervention, libérale depuis 5 ans, vous témoignez, vous réagissez d'accord ou pas avec elle. Vous serez les bienvenus au 32-16. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et puis juste après, on va passer un petit coup de fil à Paulin Reynard. C'est le directeur général du parc à thème, le Rocher Mistral. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Si vous ne connaissez pas, c'est le Puy du Fou provençal. Il a été dégradé ce week-end, des milliers d'euros de dégâts. Puis à 7h40, l'invité d'Apolline Matin.
Sur la plage abandonnée.
Les animaux, c'était le combat, vous le savez, de Brigitte Bardot. Le combat de sa vie. Notre invité, c'est la directrice des affaires publiques de la puissante fondation Brigitte Bardot. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'impunité pour les voleurs d'identité, c'est une information RMC. Seulement 4200 condamnations pour usurpation ont été prononcées l'an dernier, alors que l'on compte plus de 200 000 victimes. Vous entendrez l'une d'elles dès le début de ce journal. Une pluie d'hommages pour Brigitte Bardot, décédée hier à l'âge de 91 ans, mais pas celui des féministes qui regrettent les prises de position de l'actrice pendant le mouvement MeToo. Et puis Donald Trump, fanfaronne à l'issue de sa rencontre avec son homologue ukrainien, mais n'annonce toujours rien de concret pour un accord de paix avec la Russie.
Alors c'est un fléau qui prend de l'ampleur mais qu'on a encore bien du mal à punir.
L'usurpation d'identité fait en France plus de 200 000 victimes chaque année et pourtant ces auteurs sont très rarement inquiétés. La preuve l'an dernier, et c'est une information qu'RMC vous révèle ce matin, seuls 4200 cas d'usurpation ont donné lieu à une condamnation, chiffre du ministère de la Justice. Et pour cause, il est très difficile de traquer ces voleurs d'identité. Ce retraité normand a rencontré par Julie Libro le constate chaque jour depuis plus d'un an.
Depuis novembre 2024, Christian, 72 ans, a été enregistré à son insu comme le gérant d'une société automobile. Des malfaiteurs ont acheté plus de 3000 voitures, toutes immatriculées à son nom. Le retraité normand reçoit depuis des PV presque tous les jours.
Ce matin, c'est une petite journée, j'ai eu que 14 PV. Mais en général, c'est entre 30 et 40. Beaucoup de stationnements dans Paris, par exemple, des excès de vitesse dans les quatre coins de la France, en Belgique, en Allemagne, de partout.
Près de 600 amendes au total pour lesquelles le retraité porte plainte systématiquement. Mais faute d'un service centralisé, les finances publiques prélèvent de l'argent directement sur son compte bancaire.
Vous écrivez, personne ne vous répond. Vous téléphonez, c'est une plateforme qui tourne en rond. Personne aujourd'hui n'a de solution.
L'enquête, elle, n'a toujours pas permis d'identifier les malfaiteurs qui opèrent parfois depuis l'étranger, assure une source policière avant de déplorer le manque de moyens d'investigation. Et selon nos informations, 4208 condamnations pour usurpation d'identité ont été prononcées l'année dernière, un chiffre bien en deçà des quelques 200 000 victimes touchées.
Et nous serons avec Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale à 8h10. Alors les bons conseils pour éviter de se faire usurper son identité, et puis surtout le constat, 4000 condamnations, 200 000 victimes. Vous, peut-être, parmi ces 200 000 victimes, vous témoignez au 32-16, n'hésitez surtout pas.
Il est 7h32 sur RMC et elle aura laissé une trace indélébile sur le cinéma français. Pour la cause animale aussi, nous pleurons une légende du siècle, a écrit Emmanuel Macron hier, pour rendre hommage à Brigitte Bardot qui s'est éteinte à l'âge de 91 ans dans sa célèbre résidence de la Madrague à Saint-Tropez. Une icône qui a bousculé les codes, mais dont les prises de position au fil de sa vie ont aussi choqué Régine Chalralèche.
À l'écran, Brigitte Bardot incarne une femme sensuelle, libre et audacieuse. Une rupture dans le cinéma des années 60, selon le photographe Henri-Jean Servat, qui fut aussi son ami.
Tous les films de Bardot, c'est elle l'héroïne qui est la vedette du film, c'est pas un homme. Et Brigitte, ce qu'elle a fait, elle a mis la femme au centre du jeu, au centre des films. Et les personnages qui étaient écrits à l'écran ont montré des femmes qui se battaient pour exister et qui étaient plus simplement les jouets des hommes. C'est ça que Brigitte a apporté.
Première star à servir de modèle pour le buste de Marianne en 1970, elle soutient et défend le droit à l'avortement quelques années plus tard. Toutefois, ses prises de position lors du mouvement MeToo ont indigné les mouvements féministes, souligne Iseline Fourtic, avocate et coprésidente d'Ensemble contre le sexisme.
Elle a soutenu Gérard Depardieu, elle a soutenu Nicolas Bedos et elle n'a jamais été dans le soutien de la parole des femmes et dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
La star fidèle à son franc-parler assurait d'ailleurs dans une récente interview à BFM TV « Le féminisme, c'est pas mon truc ».
Et l'actrice avait également été condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale.
Et son profil, on en parle ce matin. Que retiendrez-vous, vous, ce matin de Brigitte Bardot? Vous nous le dites au 32-16. On va parler de tous ces aspects-là, bien entendu, tout au long de la matinée et de son engagement pour la cause animale. Évidemment, vous le connaissez. On sera avec la directrice des affaires publiques de la Fondation Brigitte Bardot juste après ce journal. Mais vous n'hésitez pas à témoigner au 32-16.
7h34, rien ne semble entacher son optimisme. Donald Trump se montre toujours aussi confiant après son entrevue cette nuit avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a reçu dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. C'est là que l'on retrouve l'envoyé spécial d'RMC et de BFM TV, Naoufel Elkaoui. Naoufel, le président des États-Unis assure qu'il n'a jamais été aussi proche de décrocher un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie.
Donald Trump et Volodymyr Zelensky parlent d'une réunion fructueuse avec de nombreux progrès. Un plan en 20 points, approuvé à 90% par les États-Unis avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret. Et surtout, il reste encore des points de blocage, notamment concernant la question territoriale et celle du contrôle du Donbass. Le président américain expliquait que c'était encore complexe et que le problème n'avait pas été résolu. À l'issue de cette rencontre, une visioconférence d'une heure avec plusieurs dirigeants européens a été organisée en présence d'Emmanuel Macron. Des dirigeants européens qui sont attendus à Washington début janvier avec Volodymyr Zelensky pour poursuivre ces négociations dans l'espoir d'un accord de paix.
Emmanuel Macron a de son côté annoncé une réunion des alliés à Paris début janvier. Donald Trump, lui, est sur tous les fronts. Il poursuit ses consultations aujourd'hui. Il recevra le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de l'avenir de la trêve à Gaza. Il est 7h36 sur RMC et le Stade Toulousain est en tête du top 14 ce matin à l'issue de la 13e journée hier. Et après sa victoire écrasante 60-14 face à La Rochelle, une belle manière de terminer l'année pour les Toulousains. Toulousains qui sont à mi-parcours très haut au-dessus du lot, Wilfried Templier.
Oui, le Stade Toulousain domine encore et toujours ce top 14, triple champion de France en titre. Les Toulousains ont surclassé La Rochelle et sont favoris à leur succession, au plus grand plaisir du demi-mêlé Antoine Dupont.
Quand on a envie de se faire jouer les uns les autres, envie de bosser les uns pour les autres, avec la qualité du groupe qu'il y a, ça donne des résultats comme on a là et je pense que ça montre aussi l'ambition qu'on a sur cette fin de saison.
À l'inverse, la déception vient du dernier finaliste du top 14 et champion d'Europe, l'Union Bordeaux-Bègles, à la traîne à 13 points du leader toulousain. Le deuxième ligne Boris Palus sait qu'il en manque.
Je pense que c'est pas assez. On traîne le début de saison à l'extérieur, je pense qu'il n'a pas été bon. Et surtout, on traîne cette défaite à la maison contre Pau, je pense qu'il a fait mal.
Enfin, en bas de tableau, la deuxième partie de saison devra dire qui de Montauban ou Perpignan, deux points d'écart entre les deux, descendra directement en Pro D2 avec un électrique duel entre ces mal classés dès le samedi 24 janvier au stade Aimé Giral de Perpignan.
À la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie a validé son ticket pour les huitièmes de finale en battant le Burkina Faso 1-0. Ce soir, c'est au tour du Maroc d'essayer de décrocher sa place face à la Zambie. Match à 20h à vivre évidemment sur RMC.
Et puis il y a le Quintet, Élise. C'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Avec le prono de la Dream Team des courses RMC, le favori aujourd'hui, c'est le numéro 2, Style d'Emir. L'outsider, c'est le 16, Dixan Senora.
Merci beaucoup, Élise Dangean. C'était le journal de 7h30. Et on part tout de suite à la Barbenne, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Paul Arénard.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du parc à thème, le Rocher Mistral, un parc implanté, je le décris hein, pour ceux qui ne connaissent pas, autour d'un château millénaire. Et ce week-end, ce lieu classé a été dégradé, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Racontez-nous.
Écoutez, nous sommes absolument scandalisés. Notre gardien s'est rendu compte dans la nuit de samedi à dimanche que nous, plusieurs personnes se sont introduites d'une manière évidemment illicite dans le château, ont tagué quelques murs du château et ont déversé de l'essence avec la volonté de vouloir mettre le feu au château. Il a pu heureusement les surprendre avant que l'incendie ne puisse être déclenché pour sécuriser la zone. Voilà.
Alors, vous y parliez de tag. Alors, on voit des symboles anarchistes, hein, le A entouré d'un cercle. Vous parliez d'essence, et ça, j'imagine que vous avez eu très peur pour le château, hein, qui est là depuis près de 1000 ans quand même.
Exactement, nous parlons du plus ancien château de Provence qui est entièrement meublé, qui est un monument qui est classé monument historique. C'est un acte qui est absolument insupportable de savoir que l'on veut s'attaquer à un château millénaire qui aurait pu partir en fumée avec des personnes dedans, tout cela en plein milieu.
Vous pensez que le projet c'était de provoquer un incendie?
Bah écoutez, je pense que l'on ne déverse pas de l'essence simplement pour agrémenter l'odeur d'un château.
Vous aviez déjà fait l'objet de menaces, Paulin Reynard?
Oui, depuis que le rachat par Vianney d'Alençon du château et la création du Rocher Mistral, le château a subi plusieurs attaques, particulièrement ciblées par l'ultra-gauche. Mais jamais on ne s'était encore attaqué au monument avec la volonté de l'incendie.
Oui, alors il y a des questions très politiques hein, qui se posent entre des opposants et votre parc. Je voyais un historien cité par Libération qui parle d'un parc royaliste et catholique. Donc vous citez l'ultra-gauche. Mais aujourd'hui, Paulin Reynard, pour rester sur les faits, on est incapable d'identifier hein, les auteurs de ces dégradations.
Écoutez, on est incapable parce qu'on ne les a pas arrêtés. Néanmoins, nous avions déjà par le passé rencontré ce même type de tag anarchiste à l'extérieur du château qui avait été revendiqué par des groupuscules d'ultra-gauche. Donc je crois que le lien est rapidement établi. Ce qui est absolument certain, c'est que aujourd'hui, s'attaquer à un bâtiment même au-delà du projet, c'est une sorte
de... Oui, vous dites au-delà du parc à thème, il y a un château millénaire qui était menacé ce week-end. Et je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous décrire la situation, nous dire votre inquiétude aussi, Paulin Reynard, ces tags et surtout cette essence aspergée. Hein. On peut s'imaginer aisément le pire. Merci Paulin Reynard, directeur général du parc à thème, le Rocher Mistral, d'avoir pris quelques minutes ce matin en direct sur RMC. Il est 7h41.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et on repart tout de suite au 32-16, retrouver Jean-Louis qui est dans le Val-de-Marne. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour.
Vous êtes infirmier libéral et vous réagissiez à cette info qu'on développe ce matin. Vous allez avoir plus de travail. Vous allez pouvoir prescrire, vous allez pouvoir établir un diagnostic infirmier, vous allez pouvoir vacciner les infirmiers et infirmières de France. On pallie ainsi hein, les déserts médicaux. Jean-Louis, vous dites que ben finalement, ces activités, vous en aviez déjà beaucoup, vous avez déjà élargi vos compétences.
Absolument. Là, ce que je trouve que le gouvernement va faire, il va juste légaliser le fait qu'on faisait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que je voudrais souligner, d'un côté, on a les pharmaciens qui vaccinent, qui font beaucoup de soins qu'on faisait nous. Et de l'autre côté, on va nous demander de faire des choses qui vont permettre de ne pas aller voir le médecin, d'avoir un raccourci dans la prise en charge, en fait gagner du temps, Mais est-ce que c'est la solution?
Je vous pose la question, est-ce que c'est la solution?
La solution, c'est déjà d'augmenter le nombre de candidats à cette profession, de favoriser les 3 années d'études, qu'on soit pas obligé de travailler en même temps et d'étudier. Voilà, c'est facile.
On va avoir besoin. Clairement, on va avoir besoin de vous. Hein. Vous êtes en train de le souligner. La multiplication des déserts médicaux, ça c'est une réalité, mais il y a aussi le vieillissement de la population et ça on l'a évoqué avec le porte-parole des infirmiers tout à l'heure. Et j'oublie pas la revalorisation, hein, puisque c'est revenu aussi dans le témoignage de Fadela, Jean-Louis.
Ça, la revalorisation arrive toujours en dernier, et quelquefois c'est des petites miettes.
Oui, donc, résultat, vous attendez depuis 2009. J'ai bien compris l'enjeu, il y a une négociation qui arrive, et on la suivra, croyez-moi, hein, Jean-Louis, on suivra justement comment sera revalorisé l'acte infirmier. Merci mille fois d'avoir pris la parole ce matin, infirmier, infirmière, vous continuez à réagir et à témoigner, vous serez en direct avec nous sur RMC, 7h43. Dans un instant, les animaux, le combat de la vie de Brigitte Bardot.
Tu es méchant.
Bonjour Adriana Ansaya Negro.
Bonjour Maxime.
Soyez la bienvenue, vous êtes la directrice des affaires publiques de la puissante et célèbre désormais fondation Brigitte Bardot. Les grands combats, les grandes victoires aussi. Et maintenant, comment vous allez poursuivre finalement ce qui est l'œuvre de la vie de Brigitte Bardot? On se retrouve dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h45 sur RMC, RMC Story. Bon réveil à l'écoute d'RMC.
Moi je joue contre vous.
Brigitte Bardot s'est éteinte hier à l'âge de 91 ans. Et si on revient sur toute sa carrière, sur ses engagements, sur ses prises de parole, sur ses coups de gueule, sur ce qu'elle incarne en France et à l'international ce matin, on va quand même prendre le temps de s'arrêter sur ce qui a été le grand combat de sa vie, la défense des animaux. Bonjour Adriana Orancea Negro.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes la directrice des affaires publiques de la Fondation Brigitte Bardot. Vous savez ce qu'on va faire? On va d'abord retrouver Pierre Bourgès, qui est envoyé spécial d'RMC à Saint-Tropez ce matin. Bonjour Pierre, l'émotion toujours vive sur place dans le Var.
Oui, bonjour Mathieu, vive émotion. Ici, je me trouve devant la statue de Brigitte Bardot. Ici, on est en plein centre de Saint-Tropez. Et depuis hier, les habitants et les fans viennent se recueillir devant cette statue. Ils parlent tous d'une icône mondiale, d'une femme qui a représenté la France à l'international. Certains habitants ont même du mal à réaliser encore ce qu'il se passe. On l'a pensé immortelle, m'explique une femme que j'ai rencontrée ce matin et qui est venue se recueillir. Et ce matin, d'ailleurs, on peut voir aussi des dizaines de fleurs déposées au pied de la statue. Il y a des peluches et un mot dont je vous lis une partie. Bébé, nous te serons toujours reconnaissants envers ton combat. Ici, le combat dont il est question dans cette lettre, c'est évidemment celui pour la protection des animaux.
Merci beaucoup Pierre Bourgès, envoyé spécial d'RMC à Saint-Tropez. Et ça revient très rapidement quand on parle de Brigitte Bardot. Bien sûr, on parle de cinéma, de chansons, bien sûr, on parle de glamour, mais on parle de la Fondation Brigitte Bardot, de la cause animale. Elle y a consacré la majeure partie de sa vie. Le combat continue?
Oui, bien sûr, le combat continue, comme elle le voulait. D'ailleurs, elle disait toujours, si vous voulez retenir quelque chose de moi, mon héritage, et quelque part me rendre hommage, c'est de continuer le combat. Puisque grâce à sa fondation, elle a obtenu beaucoup de victoires, mais il reste encore beaucoup à faire, beaucoup à obtenir. On a 12 000 animaux sous notre responsabilité. Nous sommes une grosse structure, 300 salariés, et 12 000 animaux sous notre responsabilité actuellement, mais encore d'autres animaux à secourir.
Et là, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque évident. Et puis ces questions de bien-être animal, elles se sont imposées dans l'actualité parfois. Mais à l'époque, elle a converti de nombreux Français à ce combat-là.
Oui, tout à fait. Elle a été pionnière. C'est le terme qui revient souvent, mais elle l'a véritablement été, puisqu'elle a pris la parole à une époque où les gens moquaient le sujet. Et d'ailleurs, elle a été moquée, mais elle s'en fichait complètement. Voilà, elle était libre, comme le terme revient souvent, mais elle était libre au service de la cause qui lui tenait le plus à cœur. Et elle a mis en avant cette grosse injustice envers les animaux.
Et en fait, il y a un bilan, ce que l'on découvre un peu. On sait son engagement, on sait le travail que vous faites au quotidien à la Fondation Brigitte Bardot. On sait un peu moins le bilan de Brigitte Bardot. La condamnation de la zoophilie, la protection des phoques, bien entendu, l'interdiction du commerce des peaux, la protection des ours, l'interdiction du commerce de l'ivoire, j'ai découvert ça, les crash tests auto sur des animaux. On faisait ça à une époque, a priori, pour tester la solidité des véhicules. L'étourdissement préalable des animaux de boucherie à l'exception de l'abattage rituel. Dès 1962, elle est déjà en train de militer sur ces questions-là.
Oui, elle est venue avec le pistolet pour montrer ce que c'était. Et c'est elle qui a mis le sujet sur la table. Et d'ailleurs, dans un reportage, on la voit dire, puisque personne ne vient parler de ce qui se passe dans les abattoirs, elle était très très jeune, elle a dit, puisque personne ne le fait, je vais le faire.
Elle a 28 ans à ce moment-là.
Voilà. Et 10 ans après, elle a arrêté sa carrière pour se consacrer complètement aux animaux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres victoires. La fin des ours dansants, la participation de la Fondation Brigitte Bardot dans l'élaboration de la loi du 30 novembre 2021. Voilà, avec l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques qui va entrer en vigueur au 1er décembre 2028.
Voilà, ça c'est du concret, c'est du bilan.
Ça c'est du concret.
C'est ce qu'il fallait souligner aussi. Alors après, on a en souvenir les images de ces reportages de Brigitte Bardot sur la banquise pour défendre les bébés phoques. Ce que dit cette image de Brigitte Bardot avec des bébés phoques, c'est qu'elle a mis justement sa notoriété, son image à elle, son côté star immense international au profit des animaux.
Oui, tout à fait. Et ça a permis, en fait, son énorme notoriété a permis d'atteindre un public très, très large. Ce qui n'était pas possible avant aux autres militants de la cause animale, on va dire. Donc, elle a atteint un public très, très large. Elle a permis d'éveiller les consciences. Elle n'a pas réussi à, entre guillemets, à convertir tout le monde, puisque je reprends le terme que vous aviez utilisé au début. Mais elle a éveillé les consciences. Et ça, c'est très important. Elle a fait évoluer les lois, mais elle a fait évoluer aussi les mentalités. Et on a encore beaucoup de combats à gagner. Voilà les trois combats importants qui comptaient pour elle. Elle avait dit l'abolition de la chasse à cour, de la corrida, et la fin de l'hypophagie, la consommation de viande de cheval. Donc ça, c'était trois combats essentiels pour elle. Elle avait écrit un courrier à Emmanuel Macron il y a quelques mois.
Elle lui avait envoyé un sonotone.
Oui, à lui et à 49
autres. Pour pas qu'il reste sourd.
Voilà, il y a 49 autres personnages de l'État.
Pour la chasse à cour.
Voilà, à ce sujet, mais sur la corrida également, parce qu'elle a dit « Je crie depuis 50 ans, j'en ai marre de crier », avec son franc-parler habituel. Et on a reçu une réponse d'Emmanuel Macron. Bien sûr, pas à la hauteur des espérances de bébé, mais on travaille sur tous ces sujets, on va continuer, il y a encore beaucoup à faire. Parfois, elle était lasse de ne pas remporter des victoires aussi vite qu'elle l'aurait voulu. Impatiente, mais voilà, le sujet des animaleries, si je peux en parler ici. Mais,
allons-y, d'un mot, ce sera le dernier.
Voilà, les animaleries, c'était quelque chose qui était prévu dans la loi du 30 novembre 2021, la fin de la vente de chiots et de chatons en animalerie au 1er janvier 2024. Et en fait, ça ne s'est pas fait, parce que les ventes continuent, mais en sous-sol, avec le click and collect. Et le ministère de l'Agriculture n'aide pas du tout sur ce plan-là.
Il y a des combats encore, vous avez du travail.
Oui,
vous avez du travail, Adriana Anseanegro,
oui,
merci beaucoup.
Merci
vous êtes la directrice
beaucoup.
Des affaires publiques de la Fondation Brigitte Bardot. Ces combats, ces engagements de Brigitte Bardot, elle vous a sensibilisé à la cause animale à une époque où peut en parler. Eh ben, vous n'hésitez pas à vous témoigner au 32-16 ce matin de ce travail qui reste à faire aussi pour la Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Ce matin.
Merci beaucoup.
Retenons qu'elle s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Elle a arrêté le cinéma à 39. C'est l'essentiel de sa carrière.
Tout à fait.
La Fondation Brigitte Bardot. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Il est 7h51 sur RMC. Et dans un instant, Bérangère Bocquillon qui nous a rejoint. Bonjour Bérangère.
Bonjour Mathieu.
Vous allez passer cette semaine de fête avec nous, Bérangère.
Oui, je vais vous parler des traditions.
On va explorer les traditions.
Voilà, c'est ça, toutes les traditions du Nouvel An. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour un réveillon top niveau.
Pour ceux qui organisent, montez le son. Pour les autres, vous pourrez évaluer comme ça vos hôtes grâce à Bérangère Bocquillon. 7h52, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, les traditions du Nouvel An à suivre dans quelques secondes. Mais d'abord, le bonus RMC Martin avec Jean-Jacques Goldman, toujours au top.
Et ça dure depuis 9 ans maintenant. Jean-Jacques Goldman encore et toujours personnalité préférée des Français. Plus de 40% des personnes interrogées par le traditionnel baromètre IFOP place le chanteur de 74 ans en tête. Et globalement, on adore en France les chanteurs un peu à l'ancienne, puisque derrière Jean-Jacques Goldman... C'est Florent Pagny qui arrive deuxième, deux places de mieux que l'an dernier, et il devance un autre chanteur.
Mais ça continue encore et encore.
Francis Cabrel qui complète le podium. On trouve deux autres chanteurs dans le top 10, Soprano et Michel Sardou, la première femme. C'est Sophie Marceau, sixième, deux personnalités politiques, Bardella, 12e, Marine Le Pen, 23e, mais tout ce petit monde reste quand même assez loin derrière Goldman, alors qu'il n'est plus apparu sur un plateau télé depuis 2016.
Je te donne.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54. Vous êtes levé tôt ce matin. Vous êtes peut-être dans les préparatifs déjà de ce que vous allez organiser pour le 31 au soir cette semaine à 7h50. On va vous parler des traditions du Nouvel An. Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour.
Alors, il y a le réveillon, bien sûr, mais aussi les vœux. Et puis ce week-end, on évoquera avant le week-end la galette des rois, bien entendu. Bref, Bérangère, vous allez nous détailler ces traditions. Aujourd'hui, vous parlez de la soirée du réveillon qui le plus souvent se passe à la maison.
Ouais, vous savez que le réveillon du Nouvel An, c'est la deuxième fête la plus suivie par les Français après Noël. Et en général, on fête le 31 à domicile, chez soi, chez des amis ou plus rarement dans la famille. J'ai interrogé pas mal de monde et pour certains, le réveillon, ça reste un peu galère.
C'est un peu compliqué, soit un dîner avec des amis, soit chez moi. Mais mes parents vont sans doute être chez moi, donc je vais devoir switcher. En vieillissant, on fait des dîners. Des dîners où on est plusieurs et on discute et on boit du bon vin.
Je vais chez des amis à la campagne et on sera une quinzaine et chacun apporte quelque chose. On s'embrasse sous le gui et on se souhaite une bonne année.
Cette année, on n'est que quatre. Chacun va préparer quelque chose. Je sais que moi, je suis service de l'entrée, par exemple. On cuisine. On essaye de cuisiner.
On se partage les tâches. Moi, j'apporte un foie gras. Tu vas apporter une volaille. Tu vas apporter le fromage.
On mange, on danse, on joue, on boit aussi.
Bon, je note que plusieurs ont parlé de boire avec modération, bien entendu.
Mais oui, bien sûr. Mais surtout, ils racontent tous que le soir du réveillon, chacun apporte quelque chose. Parce que le réveillon du Nouvel An, c'est le soir du partage par excellence. Mais la personne qui reçoit a quand même quelques responsabilités sur l'ambiance de la soirée. J'ai rencontré Jérémy Combe, c'est le spécialiste du savoir-vivre. Il a quelques conseils pour un réveillon top niveau.
Vous devez lancer les conversations, peut-être mettre de la musique dès le départ, parce que danser, ça crée du lien. Vous savez que les cinq sens doivent être en éveil quand on passe à table. C'est pour ça qu'on fait un centre de table, c'est pour la vue. On met un peu de musique pour l'ouïe. On met des saveurs dans les plats pour l'odorat. Le toucher, ah, la nappe et les serviettes justement. Donc il faut vraiment que vous fassiez un petit effort ce jour-là. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est dresser une jolie table à la française. C'est-à-dire que les dents de la fourchette regardent la nappe. Et surtout, n'oubliez pas le traditionnel gui. Il faut s'embrasser sous le gui. On dit que ça porte bonheur et aisance toute l'année.
Eh ben voilà, si ça porte bonheur, c'est un spécialiste du savoir-vivre qui le dit. Alors après, chez les jeunes... Il y a toujours ce côté art de vivre traditionnel pendant le réveillon avec la fourchette calée dans du bon côté.
Alors pas toujours, hein. C'est d'ailleurs ce que raconte Jean Viard, il est sociologue au CNRS. Et pour lui, le réveillon, c'est plein de rituels, bien s'habiller, déguster des aliments de fête, danser et boire des bulles, mais pas que des bulles.
Noël se concentre sur l'enfance. Le 31, c'est les amis. Et on sait très bien que le 31 est un jour d'alcool et de sexe. Il faut dire les choses comme elles sont, notamment chez les jeunes.
Qui est né mercredi pour le réveillon, quel programme
Oui,
et je suis en train de penser au fait que je vais me coucher vers
22h. C'est ça.
Très décevant.
C'est pas pour tout le monde, on est d'accord. C'est surtout chez les jeunes, en effet, que c'est un peu alcool et sexe. C'est ce qu'ils nous racontent. Et est-ce que vous savez qu'il y a un pic des naissances en septembre, donc 9 mois environ après les fêtes de fin d'année? Un gros enjeu de réarmement démographique se joue donc ce mercredi au réveillon.
C'est quand votre anniversaire, Bérangère?
Moi, c'est en août.
En août.
Donc, un petit peu avant.
Le calendrier de l'avant, Bérangère. Et vous, Martin Bourdin?
Moi, c'est septembre et j'ai deux frères qui sont nés en septembre aussi.
Oh, okay.
Et ben voilà.
Bon, j'avais demandé à mes parents
sur le plateau.
Ouais, je connais plein de journées en septembre auxquelles je pense ce matin. Vous faites quoi pour le réveillon, vous, autour de la table, tiens?
Je sais pas, mais j'ai une petite surprise pour vous, Mathieu.
Allons-y.
Ouais, voilà. J'ai une petite surprise parce que j'ai demandé à des stars de l'antenne de me raconter leur pire réveillon. J'espère que vendredi, vous nous raconterez votre pire réveillon, Mathieu. En attendant, voilà. C'est Arnaud Demange que j'ai interrogé, notre humoriste du matin. Son pire réveillon, c'était celui de l'an 2000.
J'ai été invité par la fille populaire du lycée. Dans les séries américaines, c'est la pom-pom girl en chef, quoi. Il y a 60 personnes, bon, c'est pas méga fun. En plus, on est obligé d'être tous en costard. Donc, je fais mon réveillon en costume trop grand de chez Célio. Et je retrouve deux potes là-bas et on se dit, bon, c'est nul, on se casse, on va faire un truc beaucoup plus marrant. Et on a décidé d'aller explorer notre lycée de nuit. Donc, on est monté par-dessus les grilles, on s'est râpé les costumes, donc le costard foutu, mes parents étaient ravis. Et on a exploré notre lycée de nuit. Et en fait, c'est nul! C'est nul! Parce que c'est les mêmes salles que quand t'es en journée, c'est les endroits que tu connais, c'est des endroits qui n'ont absolument aucun intérêt. Et on est revenu, la fête était finie. Et en fait, ton réveillon de l'an 2000, tu te dis, ça va être génial, il y aura des feux d'artifice, des tas d'animations, je vais passer un moment mémorable. Et en fait, non, on était trois couillons dans un lycée désert qu'on connaissait déjà. On est bête quand on a 18 ans.
Ah oui, heureusement qu'on est bête un peu à 18 ans. Bon, le réveillon des gens qui vous parlent là ce matin, ils risquent d'être un peu sobres. Mais promis, je réfléchirai à ce que je vous raconte vendredi.
Okay, merci Bérangère. On va savoir.
Les traditions du Nouvel An tous les matins, juste avant 8h avec Bérangère Bocquillon à la une du journal de 8h. Brigitte Bardot et puis dans un instant la météo avec un froid qui pique, si j'ose dire, sur une large partie du territoire. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Géraldine Nobori, il fait froid sur RMC, enfin sur RMC et ailleurs.
Pas partout. Hein.
Il fait même un peu plus chaud sur RMC, si j'ose dire.
Sur le plateau, ça va, mais dehors, effectivement, ça caille. Des gelées quasi généralisées ce matin. Cet après-midi, pas plus de 0 degré à Bourges, 1 degré à Lyon, 4 à Paris, Lille. Il fera 11 à Bordeaux, 14 à Marseille, 16 pour Nice et Ajaccio, avec pas mal de brouillard hein, ce matin, parfois givrant. Globalement, le soleil va s'imposer, mais avec par endroits des grisailles qui resteront tenaces vers la Gironde, également entre le nord du Val de nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Val de Saône.
8h sur RMC, un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et Quentin Vinet est avec nous pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Saint-Tropez rend hommage à Brigitte Bardot ce matin, là où l'actrice est décédée à 91 ans dans sa madrague, dans sa ville, qu'elle avait rendue célèbre dans le monde entier, RMC et sur place. Attention sur la route. À partir de ce matin, les très grands excès de vitesse deviennent des délits. On verra ce que ça change. Et le Maroc, le foot. Le Maroc sous pression aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations pour décrocher une place en 8e de finale.
La ville de Saint-Tropez rend hommage à Brigitte Bardot.
Oui, son ambassadrice la plus éclatante. Voilà ce qu'écrit la ville où l'icône avait acheté sa villa dans les années 50, où elle s'est éteinte hier à l'âge de 91 ans. Amélie Courtet, vous êtes d'ailleurs en direct de Saint-Tropez ce matin pour RMC, envoyé spécial. Ville que Brigitte Bardot a fait connaître donc dans le monde entier.
Oui, plus de 60 ans qu'elle vivait ici dans sa célèbre résidence, la Madrigue, en bord de mer. C'est dans cette même villa qu'elle est décédée hier, à l'âge de 91 ans, dans les bras de son mari Bernard Dormal. À quelques mètres de là, les fans de Brigitte Bardot se sont succédés jusque tard dans la nuit. Bougies, fleurs, peluches et des mots, bébé, on ne t'oubliera pas. Émotion jusque dans le centre de Saint-Tropez, où son décès est sur toutes les lèvres ce matin. Fred, par exemple, journal local dans les mains, avec en une un portrait de l'actrice jeune, salue une icône.
La femme avec un F majuscule, c'est vraiment grâce à elle qu'il y a eu toute cette libération. La femme n'était plus considérée comme un simple objet, c'est devenu un être humain à part entière. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle s'est quand même battue bec et ongle, c'est le cas de le dire, pour la cause animale. C'est une grande dame qui s'en va. Comme quand vous avez des gens comme Belmondo qui partent, Brigitte Bardot, pour moi, c'est sur la même ligne.
Cette ville n'aurait pas le même prestige sans elle, reconnaît un autre habitant. Ici, on cite ses films et Dieu créa la femme. On fredonne le refrain de sa chanson Harley Davidson. Une cérémonie hommage devrait être organisée dans les prochains jours à Saint-Tropez. La date n'a pour le moment pas été communiquée.
Amélie Courtet en direct de Saint-Tropez pour RMC. Brigitte Bardot s'y était installée en tant qu'actrice à Saint-Tropez avant d'arrêter le cinéma et de faire de la cause animale son combat au point de créer sa fondation que chacun connaît, ce qui lui vaut d'ailleurs l'hommage écouté de Jacques-Charles Fonbonne, c'est le président de la SPA.
Je dirais que c'est plus qu'une icône de la protection animale. C'est quelqu'un qui a fait germer dans l'esprit de tout le monde le fait que la condition animale était quelque chose d'important. C'était quelque chose de complètement nouveau et quelque chose auquel l'ensemble de la population n'accordait aucun intérêt. Elle a été à l'origine de la protection animale moderne et surtout un éclairage unique et irremplaçable de cette cause vis-à-vis de la population.
Alors parmi tous les hommages dont on parle depuis tôt ce matin sur RMC, sachez que toute une partie de la classe politique, à gauche notamment, reste silencieuse. Des élus LFI rappellent les condamnations judiciaires de Brigitte Bardot, sa proximité avec les Le Pen. Romain Cluzel du service politique à RMC, l'actrice avait une relation contrastée avec les présidents avant de soutenir l'extrême droite.
C'est en chemise-pantalon que Brigitte Bardot franchit pour la première fois le perron de l'Élysée en 1967. Une entorse au protocole de l'époque. À son arrivée, le président de Gaulle s'exclame « Chic, un militaire ». Quelques années plus tard, t-shirt Giscard à la barre sur le dos, bébé soutient activement VGE et la protection des animaux est déjà au cœur de ses revendications. Elle le convainc de mettre fin à l'importation des fourrures de phoques. Suivent plusieurs déceptions pour l'ancienne actrice. Aucun chef de l'État n'est à la hauteur sur la condition animale selon elle. Surtout Brigitte Bardot ne cache pas son amitié pour la famille Le Pen, notamment Marine, qu'elle qualifie de Jeanne d'Arc du 21e siècle. En 2022, elle soutient Éric Zemmour, puis Nicolas Dupont-Aignan. Après avoir tenu des propos ouvertement islamophobes, Brigitte Bardot est condamnée à 5 reprises pour incitation à la haine raciale.
C'est intéressant aussi hein, ce rapport de Brigitte Bardot à la politique, aux politiques, sa façon d'interpeller les différents présidents de la cinquième. On en parlera, tiens, avec Jack Lang qui sera en ligne avec nous à 8h30 tout à l'heure. On sera aussi avec Christophe Carrière, grand reporter au service culture à Paris Match, l'histoire d'amour entre Paris Match et Brigitte Bardot. On va en parler. Elle était encore à la une le 24 décembre dernier, à la une de Paris Match. Elle le sera cette semaine, à n'en point douter. On en parle et vous nous dites votre souvenir de Brigitte Bardot ce matin au 32-16. Il est 8h05 et le gouvernement hausse le ton sur les grands excès de vitesse.
Oui, à partir de ce matin, les excès supérieurs à 50 km/h deviennent des délits. Ils étaient passibles jusque-là de contraventions. Délits, ça change que désormais, si vous roulez à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, eh bien vous encourez une peine de 3 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Marion Degas, vous avez pu échanger pour RMC avec le père d'une victime d'accident de la route. Il mise sur ce nouveau décret pour responsabiliser davantage les automobilistes.
Stéphane Dolo a perdu son fils dans un accident de la route il y a 3 ans, percuté à très vive allure par un chauffard.
Le monsieur en question n'était pas à 110 km/h, mais à 177.
Soit 67 km/h au-dessus de la limite autorisée sur cette route départementale du Lot. L'automobiliste est un père de famille de 39 ans, il conduisait un SUV.
C'est monsieur tout le monde avec un véhicule un peu costaud. Avec un gros véhicule comme ça, très lourd, c'est un boulet de canon. Et la preuve en est, la voiture de mon fils a été traînée sur 70 mètres.
Mais au procès, le conducteur qui en plus utilisait son téléphone au volant nie les faits.
Moi, j'ai pas entendu un quelconque regret. Les magistrats lui ont dit, mais on a la preuve, vous avez roulé à 177 km heure au moins. Et la seule chose que j'ai entendue de sa part, c'est si vous le dites.
Ce message de fermeté était donc plus qu'attendu.
J'adhère complètement à ce genre de loi parce que ce genre de comportement est vraiment à bannir. Ça n'a plus rien à faire sur nos routes.
L'an dernier, 63 000 excès de vitesse de plus de 50 km/h ont été relevés par la sécurité routière. C'est 69% de plus en 8 ans.
Il faut encore gratter les pare-brises ce matin dans de nombreuses régions avec les températures négatives qui perdurent la nuit, nous dit Météo France. Raison pour laquelle d'ailleurs le plan grand froid a fini par être activé en Ile-de-France. Ça veut dire plus de maraudes, plus d'hébergements d'urgence. Ce plan a été réclamé depuis des jours par la ville de Paris, alertant sur la situation dramatique des personnes sans abri. Marius Roland s'est rendu d'ailleurs pour RMC dans un lieu d'accueil du 13e arrondissement de Paris.
Maxime est sans domicile fixe depuis plus de 10 ans. Il a trouvé refuge ici. Passé tout un hiver glacial dans la rue, il sait ce que ça fait.
Ça peut provoquer de l'eczéma, des douleurs osseuses aussi. Et beaucoup de fatigue aussi, physique, mentale, etc.
Et quand ça devient urgent de se réchauffer, c'est loin d'être facile. Ellie vient seulement d'obtenir un lit hier.
Tu essayes de gratter une place dans les bâtiments ou dans la gare, mais bon, au bout d'un moment, les gares, ça ferme. Les accueils de jour, heureusement qu'ils sont ouverts pendant les périodes de fêtes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont fermées.
Chaque jour, les dégâts du froid sur ces hommes et ces femmes, Mustapha les constate. Il est agent d'accueil ici depuis 17 ans.
Ils sont encore plus pauvres quand ils sont dans le froid. Les hivers sont de plus en plus rudes. Il faut dire qu'ils arrivent un peu fatigués par la rue, dans un état catastrophique, usés, ils ont froid, ils ont faim, ils perdent toute notion du temps, ils sont complètement perdus.
Selon les dernières données de la mairie de Paris, plus de 3500 personnes étaient sans solution d'hébergement dans la capitale, un chiffre en hausse depuis 2021.
On reparle ce matin du combat contre le trafic de drogue à Marseille. Combat que mène, vous le savez, depuis des années, Amine Kessassi. Un de ses frères a été assassiné en novembre et un premier l'avait été il y a 5 ans sur fond de trafic de drogue. Il y a 5 ans, point de départ d'ailleurs de son combat contre ce trafic. Célestin Bougère pour RMC. Amine Kessassi lui rend hommage dans un long message qu'il publie sur ses réseaux sociaux.
Ah oui, je t'ai pleuré, je te pleure encore. Les mots d'Amine Kessassi pour son frère Brahim, le 28 décembre 2020. Son corps est retrouvé, criblé de balles et carbonisé dans un véhicule près de Marseille. Le procès des assassins présumés de Brahim Kessassi doit se tenir à partir du 19 octobre prochain. 5 ans après ce drame, Amine Kessassi est devenu l'une des voix les plus importantes de la lutte contre le narcotrafic. Je ne me suis pas construit comme un jeune découvrant la vie, mais comme un combattant pour la paix, clame-t-il dans ce message. Un combat qu'il porte toujours avec force, malgré le deuxième drame qui a touché sa famille, l'assassinat d'un autre de ses frères, Mehdi, le 13 novembre dernier. C'est avec une pensée pour lui qu'il ponctue son message. Brahim, Mehdi est près de toi, veillez l'un sur l'autre.
Emmanuel Macron annonce ce matin une réunion début janvier à Paris des alliés de l'Ukraine. dans la foulée d'un échange Trump-Poutine, ça c'était hier soir, et d'une rencontre Trump-Zelensky, ça c'était cette nuit. Le président américain Donald Trump pense qu'un accord de paix pour l'Ukraine est tout proche. Il se dit d'ailleurs prêt à aller parler devant le Parlement ukrainien. Donald Trump qui va recevoir aujourd'hui aux États-Unis l'Israélien Benjamin Netanyahou. Il sera question de la trêve à Gaza alors que la deuxième phase du plan américain semble là-bas dans l'impasse.
Il est 8h10 sur RMC et le Maroc qui a la pression à sa Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, que vous suivez sur RMC, vous le savez, radio officielle. Hier, l'Algérie a rejoint l'Égypte et le Nigeria en huitième de finale et aujourd'hui, c'est donc le Maroc avec le retour d'Achraf Hakimi qui va tenter de se qualifier face à la Zambie, le match à 20h. Un retour qui tombe très très bien, Nicolas Pelletier, puisque les Marocains sont très critiqués depuis leur match nul de vendredi contre le Mali.
Oui, et après les sifflets reçus vendredi soir à Rabat, le sélectionneur marocain Walid Regragui sonne la mobilisation générale.
C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses. J'aurais dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment.
Une sélection en plein doute qui pourra compter sur le retour d'Achraf Hakimi. Toujours très calme, le capitaine des Lions de l'Atlas hausse le ton contre ceux qui osent critiquer la sélection marocaine.
Je sais que les supporters ne sont pas contents pour qu'on joue à la maison. C'est pas normal que tous ici, on voulait jouer avec les supporters. De temps en temps, on dit que les critiques, on s'en fout des critiques, mais c'est pas vrai. On écoute et ça fait mal aussi.
Pour Walid Regragui, la participation de son taulier Hakimi tombe à point nommé.
Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf. On a fait deux matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur. Achraf, aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi, c'est mon relais principal.
Pour retrouver une union sacrée autour de la sélection nationale, Hakimi et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur face à la Zambie ce soir.
Et ce match du Maroc, ce sera à 20h ce soir sur RMC.
Merci beaucoup Quentin Vinet, on vit à Cannes en direct sur RMC. Évidemment, 8h11, c'est l'heure de parler d'énergie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Alors Manu, le chiffre, c'est l'anti-Père Noël. Il rentre de vacances. Bonjour Manu, ça va?
Tu veux des taxes? J'ai ce qu'il faut.
Eh, ça marcherait. Hein. Sur Netflix, moi je clique. Toutes les factures de gaz et d'électricité vont augmenter au 1er janvier.
Oui, alors...
Merci pour Manu. Alors, c'est cool de revenir de vacances.
Ah, puis alors là, personne ne va y couper. Ça va être quasi automatique. Il faut savoir que ça n'est pas à cause de l'augmentation du prix ou du gaz vont devenir plus chers que nos factures vont augmenter. Non, c'est le fruit d'une politique publique contraignant les fournisseurs d'énergie à nous inciter à faire des économies. Ça vous paraît complexe ? C'est normal, c'est français. reprenons. Donc, depuis 2005, l'État impose aux vendeurs d'énergie, comme EDF, Engie ou Total Energy, d'aider les Français à consommer moins de gaz et d'électricité en isolant davantage, en changeant de chaudière en installant une pompe à chaleur, par exemple, la plupart du temps. Donc, ça revient à aider l'État à financer des dispositifs comme MaPrimeRénov'. Et au 1er janvier, eh bien, ces fournisseurs d'énergie vont devoir financer 27% d'économie d'énergie en plus que ce qu'elles finançaient auparavant via un mécanisme qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Or, les travaux sont de plus en plus coûteux et donc ces certificats d'économie d'énergie vont coûter de plus en plus cher à ces fournisseurs qui vont donc répercuter tout ça sur notre facture.
Et notre facture, c'est l'heure de l'addition, combien ça va nous coûter ?
Alors, le problème, c'est que la façon dont les fournisseurs vont répercuter cette hausse des coûts sur notre facture est assez opaque. Il n'y a pas de ligne spécifique, il y a une vague ligne sur la fiscalité. UFC Que Choisir nous dit que la contribution annuelle moyenne des consommateurs à ces certificats d'économie d'énergie, c'est entre 124 et 244 euros. Et donc, au 1er janvier, ce sera sans doute 50 euros de plus sur l'année. Sachant que c'est 50 euros pour le gaz, 50 euros pour l'électricité.
Ah oui.
Donc, si vous êtes à la fois client au gaz et à l'électricité, ça vous fera quand même 100 euros de plus sur l'année.
Alors, attendez, tous les clients sont concernés, mais...
Oui, absolument tous, quels que soient les fournisseurs d'énergie, quel que soit le type de contrat souscrit, y compris les contrats à prix fixe, vous savez, puisque la partie fixe du contrat ne porte que sur le prix de la molécule de gaz, etc. Tout ce qui est fiscalité, par exemple, c'est
génial, on a un prix fixe, sauf pour ce qui est pas fixe, quoi.
Oui, parce que... alors, oui, un contrat à prix fixe...
Je comprends la logique.
Quand tout le reste bouge, quand la fiscalité bouge, vous êtes bien obligé, quand vous êtes fournisseur, de répercuter l'énergie. Mais là où c'est quand même assez paradoxal, c'est que ça revient un peu à faire payer aux ménages la facture de la transition énergétique pour laquelle on est censé les aider. c'est...
Non, mais si en face, on a un service MaPrimeRénov' qui est très clair et très simple et limpide et qu'on peut en plus bénéficier de... Non.
Bien sûr. Non, mais c'est là où vous croyez vraiment au Père Noël.
On y revient. On y revient. 8h14. Merci, Emmanuel de Chypre. C'était l'économie. Très bon réveil à toutes et à tous sur RMC. On va filer au standard. Retrouver Pierre qui nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour, Pierre.
Bonjour tout le monde.
Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes un ancien infirmier libéral, vous, je crois, Pierre.
Tout à fait. Je suis un ancien infirmier libéral et je suis démissionnaire de l'hôpital. Et pour reprendre justement une activité libérale, là, dans début d'année prochaine.
Alors, je rappelle pour ceux qui. On est quand même sur une période de vacances. Certains ont mis le réveil à 8 heures. Ils n'ont peut-être pas tous suivi. On parlait ce matin des nouvelles responsabilités hein, qui incombent aux infirmiers. Vous allez pouvoir prescrire. Parfois, vous allez pouvoir vacciner. Vous allez pouvoir, en fait, pallier l'absence de médecins dans certains déserts médicaux. Aujourd'hui, les infirmiers, avec, nous promettons, une revalorisation en vue de l'acte infirmier. Pierre, aujourd'hui, vous avez des compétences qui sont insuffisamment exploitées.
En fait, il y a quelque chose d'évident au niveau mondial. C'est que les infirmiers en France... est sous-évalué. Moi, par exemple, j'ai ma sœur qui est infirmière au Canada. Elle a un champ de compétences qui est absolument considérable par rapport à moi. Il faut savoir quelque chose en France, c'est que la durée de vie d'une infirmière, c'est 7 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, l'infirmière est dégoûtée, sous-reconnue, sous-payée, sous-évaluée. Et en effet, l'infirmière ou l'infirmier s'en va.
Oui, ouais, donc je vous comprends bien, on manque de médecins aujourd'hui pour plein d'autres raisons. Mais si on ne veut pas en plus manquer d'infirmiers au bout, il va falloir se saisir à la fois de vos compétences et de vos revenus.
Après, sur cette histoire de rémunération et de compétences, en effet, il y a un peu aujourd'hui un système qui se marche sur la tête. On parle de médecins libéraux qui sont complètement débordés. Aujourd'hui, le cas concret, par exemple, on a un patient qui est diabétique, qui va voir son médecin traitant. Son médecin traitant lui prescrit une prise de sang. Il va voir son infirmier libéral qui fait la prise de sang. Le médecin revoit le patient 10 jours plus tard. Ça fait 2 rendez-vous pour un médecin pour le même problème. Ce qui aujourd'hui est complètement aberrant. Et si déjà on libérait cet espace-là...
Bah oui, ça dégage des rendez-vous, ça dégage du temps. Et ça dégage des chances aussi hein, pour certains malades, nous disait le porte-parole Thierry Amouroux, porte-parole des infirmiers. Merci Pierre, qui retourne en libéral, hein, si j'ai bien compris. Ancien libéral, passé par l'hôpital, qui retourne en libéral. Merci d'avoir témoigné ce matin en direct. Vous êtes nombreux, nombreuses, les infirmiers, infirmières, à réagir ce matin en direct sur RMC. Bien, vous continuez, vous êtes ici, chez vous. Il est 8h17.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Martin, on a pas mal de réactions ce matin sur le WhatsApp RMC.
Et on le disait, pas mal de réactions, notamment d'infirmiers qui réagissent à ces nouvelles prérogatives accordées aux infirmiers, vacciner, prescrire, diagnostiquer. Notamment, Philippe nous écrit par exemple, il craint que ça ne fasse que dégrader la qualité des soins. J'ai suffisamment à faire pour qu'on me demande d'autres actes. Voilà pourquoi je suis en reconversion, nous écrit Philippe. Thierry, de son côté, explique que le médecin n'est pas la médecine n'est pas du débit à la chaîne, pardon. 10 ans d'études, ce n'est pas pour faire joli. Ne glissons pas vers du tému de la médecine, nous écrit Thierry sur WhatsApp 0612 424 424. Des réactions. Et puis des hommages ce matin à Brigitte Bardot au lendemain de son décès à 91 ans hier. On a cette auditrice par exemple qui nous écrit: Brigitte Bardot, grande dame et surtout un grand cœur. Et puis Christian, Brigitte Bardot a été l'icône des années 60 et 70 avec cette image de libération de la femme. Certains féministes actuels devraient lui en être éternellement reconnaissants. Et vous, quelle image vous garderez de Brigitte Bardot? Venez nous le dire, tiens, sur WhatsApp et au 3216 0612 424 424 pour le WhatsApp.
On sera notamment avec un grand reporter à Paris Match, la longue histoire de Brigitte Bardot avec Paris Match, histoire plus complexe avec les paparazzi, la célébrité, l'image, l'icône Brigitte Bardot. Que retenez-vous, vous, de Brigitte Bardot ce matin? Vous nous le dites au 32-16, n'hésitez pas, on en parlera à 8h30. Mais dans un instant, ce chiffre qu'RMC vous révèle en exclusivité, plus de 200 000 victimes d'usurpation d'identité chaque année en France, mais seules 4 208 condamnations prononcées en 2024, selon le ministère de la Justice. Bonjour Agathe Foucault.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la police nationale. Pourquoi c'est si difficile d'attraper ce genre d'escroc? Et puis surtout, comment éviter de se faire usurper son identité? C'est le sens de votre message ce matin. Vos réponses dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h20 sur RMC, RMC Story. On va parler du fléau de l'usurpation d'identité en France avec cette information que révèle RMC. Seules 4208 condamnations pour usurpation d'identité prononcées en 2024, alors qu'il y a plus de 200 000 personnes qui en sont victimes en France. Faible ratio, me direz-vous, peu parviennent à obtenir justice. Mais d'abord, une autre question, Agathe Foucault, rebonjour. Une autre question pour la représentante de la police que vous êtes. À partir d'aujourd'hui, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée deviennent un délit et non plus une contravention. Qu'est-ce que ça change ?
Ce que ça change, c'est d'abord sur la peine qui peut être prononcée par le magistrat à l'issue de la procédure, avec une peine d'emprisonnement et une peine d'amende de 3 750 euros d'amende. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est vraiment d'apporter cette réponse ferme pour protéger les usagers de la route. Il y a presque 3 500 morts par an sur les routes. La principale cause de la mortalité, c'est la vitesse, c'est les grands excès de vitesse. Un tiers des morts sur la route sont dus à cette vitesse qui est excessive ou inadaptée. Donc il y a vraiment la nécessité une prise de conscience collective.
Un tiers des morts
sont dus à une vitesse excessive ou inappropriée.
Bon, on parle en plus là sur ces grands excès de vitesse, on parle de quelqu'un qui roule à 100 en ville, à 180, 190 sur l'autoroute.
Au-delà de 50 km/h, effectivement, on considère que c'est un grand excès de vitesse. Et puis, au-delà de la peine de prison, au-delà de l'amende, il y a aujourd'hui la possibilité pour le magistrat de prononcer une peine d'annulation du permis de conduire, avec l'impossibilité pour la personne qui a conduit trop vite de le repasser pendant 3 ans. Donc, l'objectif est vraiment d'apporter une sanction pénale ferme pour dissuader et pour éduquer les comportements.
Avec inscription au casier judiciaire, je le précise. On en vient à notre dossier à la une ce matin, dossier sur l'usurpation d'identité. Julie Brault de la rédaction d'RMC a rencontré une victime, un retraité normand. Écoutez Julie, il s'est fait voler ses données personnelles il y a plus d'1 an.
Oui, un cauchemar, c'est ce que vit Christian depuis novembre 2024, date à laquelle ce retraité de 72 ans a été enregistré à son insu comme le gérant d'une société automobile. Les malfaiteurs ont acheté plus de 3000 voitures, toutes immatriculées à son nom. Et depuis, il reçoit des PV presque tous les jours pour des infractions qu'il n'a pas commises.
Ce matin, c'est une petite journée, j'ai eu que 14 PV. Mais en général, c'est entre 30 et 40. Beaucoup de stationnements dans Paris, par exemple. Des excès de vitesse dans les quatre coins de la France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, de partout. Et voilà, où j'en suis aujourd'hui. C'est un scénario pas possible. On pense qu'à ça, je pense qu'à ça, je vois à nuit. Personne aujourd'hui n'a de solution.
Agathe Foucault, je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale et que vous allez aider nos auditeurs à se prémunir. Mais sur le ratio des résolutions d'enquête, c'est quand même pas beaucoup, 200 000 victimes, 4 000 condamnations. Pourquoi ?
Alors deux choses. La première, c'est que ce sont des enquêtes qui peuvent prendre du temps. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité, au-delà d'usurpation d'identité classique où on vous vole votre pièce d'identité ou vous la perdez ou vous transmettez une photocopie, il y a l'usurpation d'identité numérique avec l'utilisation de vos comptes sur les réseaux sociaux, de votre adresse mail, et donc tout cela nécessite des investigations particulières qui peuvent prendre du temps. Et puis ensuite, effectivement, vous l'avez dit, c'est 200 000 victimes par an, mais ces 200 000 victimes ne déposent pas plainte. Et donc il y a vraiment la nécessité aujourd'hui, lorsqu'on est victime d'une usurpation d'identité,
c'est important de porter plainte.
De déposer des plaintes pour qu'on le quantifie, pour que les policiers enquêtent et puis qu'on puisse aussi faire des liens, par exemple, entre un mode opératoire bien spécifique qu'on va avoir identifié à Lille et qu'on identifiera aussi à Paris et puis à Marseille. Et ça va permettre de recouper les éléments, de regrouper les éléments de preuve pour pouvoir qualifier l'infraction.
C'est la voie royale pour l'escroquerie, finalement, que l'usurpation d'identité. On vole des données personnelles, comme on l'a entendu, et aujourd'hui, on peut facilement se faire passer pour un autre.
Effectivement, le vol de données personnelles, c'est le vol de votre nom, de votre date de naissance, de votre justificatif de domicile, et ça va permettre aux escrocs derrière de contracter des locations de vacances, des locations de voitures, des cartes grises, et puis également... Ça va permettre de tout type d'infractions qui vont vraiment porter préjudice à la victime jusqu'à aller à l'interdit bancaire, donc ce qui au quotidien pose vraiment des difficultés.
Alors ensuite, sur la suite entre les personnes qui se déclarent victimes et les condamnations, on avait ce message que vous avez lu, Martin.
Exactement, Pierre qui nous écrit depuis les Yvelines, qui s'est fait usurper son identité. On a créé un compte bancaire à sa place, il s'est battu, il a déposé plainte, il a appelé et relancé le commissariat et on a fini par lui dire... On n'a pas que ça à faire, en fait, de s'occuper de ça. Ça a mis du temps. On lui a volé plus de 16 000 euros. Il a réussi à s'en sortir au final, mais parce qu'il s'est débrouillé tout seul et il s'est senti, visiblement, d'après ce qu'il nous écrit sur WhatsApp, assez démuni. En tout cas, il n'a pas eu de réponse de la part des autorités et de la part notamment de la police qu'il a sollicité.
Agathe Foucault.
Nous avons cela à faire. Hein. Ça fait quand il y a une procédure pour usurpation d'identité, nous travaillons pour identifier les auteurs. Et puis le dépôt de plainte, il est important pour la victime aussi, pour se faire reconnaître en tant que victime. Ce qui est essentiel aussi, si on est victime d'une usurpation d'identité, c'est d'aviser son établissement bancaire et puis aussi de solliciter la Banque de France pour savoir s'il y a eu des incidents concernant notre identité et identifier les conséquences.
Je précise que ça concerne les particuliers, mais pas seulement, hein, les professionnels, les comptes d'entreprise aussi. Et ces escrocs, ils ne sont pas forcément en France.
Ils ne sont pas forcément en France.
C'est une grosse difficulté.
Alors après, le travail et l'identification d'auteurs qui se trouvent à l'étranger fait partie du quotidien des policiers. Donc nous travaillons également dans le cadre de la coopération internationale.
Alors on fait attention, Agathe Foucault, à ce qu'on donne en ligne, etc. Mais aujourd'hui, nos données personnelles, que ce soit des données bancaires, des données d'identité, je ne sais pas moi, un justificatif de domicile, on passe notre vie à les envoyer en ligne.
Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a autant. 200 000, c'est beaucoup. C'est 200 000 victimes derrière qui vont connaître au quotidien des difficultés. Donc, d'où l'importance d'être vigilant, de faire des contre-appels quand on sollicite vos données personnelles par téléphone ou par mail. Et puis aussi d'avoir à l'esprit que des organismes publics ou des organismes privés sérieux ne vont pas solliciter vos données personnelles juste par téléphone. Ils vont utiliser une plateforme sécurisée. Et donc, il est essentiel d'être vigilant.
Merci beaucoup, Agathe Foucault, porte-parole de la police nationale, d'être venu éclairer nos auditeurs, expliquer aussi ce gap entre les 4000 condamnations et 200 000 personnes qui se disent victimes d'usurpation d'identité. Vous apportez un témoignage, vous n'hésitez pas, au 32-16 ce matin. Merci Agathe Fou.
Merci.
8h27. Arnaud Demange a pris quelques jours de vacances. Il a bien le droit, mais il est quand même présent avec nous ce matin. C'est le meilleur d'Arnaud Demange.
Ouais. Allez, l'actu. Emmanuel Macron a annoncé hier son nouveau service militaire. Et alors, il a assuré que ça n'était pas pour envoyer nos jeunes en Ukraine. Il a dit, je vais pas envoyer nos enfants en Ukraine, on en a quasiment plus. Les Français font plus de gosses. Je vais pas envoyer le peu qui nous reste se faire exploser sur une mine dans le Donbass. On fera comment pour les retraites? C'est pas des culs de jatte qui vont faire tourner l'économie. Et c'est vrai que les Françaises font moins d'enfants. Mais alors, Mathieu Béliard m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit... je peux pas être partout, hein.
C'est une très bonne explication.
Donc, c'est un service militaire sur la base du volontariat, 900 euros par mois, nourri, logé, blanchi. C'est pas mal, je trouve. 900 balles par mois pour me défiler dans le marché de Noël avec une mitraillette en bandoulière, c'est limite peinard. Vu la pauvreté chez les étudiants, 900 balles, c'est de l'argent de poche, tu prends, c'est pas mal. À ce prix-là, il y a même des retraités qui vont se porter volontaires. Votre nom?
Roger.
Votre âge?
84 ans et demi.
Pourquoi vous engagez?
Pour pouvoir mettre le...
Et puis, non mais c'est bien, ça évitera de sacrifier notre avenir. Au lieu de risquer de la santé de nos jeunes, parce qu'on n'en a pas beaucoup, risquons la santé de nos vieux, on en a trop.
Mais alors, bien sûr, il faut accepter de voir mourir nos vieux, c'est ça plutôt en fait.
Non mais entre l'EHPAD et l'armée, je pense que t'es mieux dans une tranchée à Mariupol que sur PA en plus. Donc c'est vraiment tout bénef.
Arnaud Demange, que vous retrouvez à tout moment en podcast sur RMC, rmc.fr, et puis en direct à partir de la semaine prochaine, bien entendu. Dans un instant, la météo et le journal de 8h30 avec bébé Brigitte Bardot, idole de la presse People, plus de 41 de Paris Match, une gloire mondiale et une vie privée pulvérisée. Comment Brigitte Bardot est devenue le mythe qu'on salue aujourd'hui. Notre invité à 8h40, c'est Christophe Carrière, grand reporter au service culture de Paris Match. À tout de suite. 8h30, Géraldine Demory, la France a froid.
Ah oui, pratiquement toute la France ce matin avec des gelées quasiment partout. On est quand même descendu à moins 11 degrés à Mourmelon. C'est vrai que dans le nord-est, c'est vraiment là qu'il a fait le plus froid. Cet après-midi, on ne dépassera pas les 0 degrés à Bourges, à Dijon, 1 degré pour Lyon, il fera 4 à Nantes, à Clermont-Ferrand, 4 à Paris, à Lille, 6 à Brest, 13 à Toulouse, 14 à Marseille, 16 à Nice et Ajaccio. Avec pas mal de soleil, une fois que les brouillards matinaux seront dissipés, c'est vrai que la grisaille restera tenace vers le Val-de-Saône, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vers la Gironde. Puis attention au risque d'avalanche qui reste très marqué sur la Haute-Maurienne notamment.
Il est 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Très bon réveil à toutes et à tous. Thibaut Texer est avec nous pour un nouveau journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Saint-Tropez se réveille sans sa star Brigitte Bardot, icône du cinéma, disparue à 91 ans. Une vie marquée et engagée pour la défense des animaux. Nous serons à Saint-Tropez dans ce journal. Une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier. C'est ce que l'annonce d'Emmanuel Macron après la rencontre cette nuit aux États-Unis entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. De nombreux progrès ont été faits sur le président américain. Et le Maroc, qui veut rejoindre l'Algérie, est qualifié pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations.
Et Brigitte Bardot est à la une de vos journaux ce matin.
Son visage en première page de la presse nationale, régionale, mais aussi internationale. Icône du cinéma, de la mode, symbole de la libération de la femme, Brigitte Bardot a bousculé les codes de sa génération affranchie, engagée. Elle s'est éteinte hier matin chez elle à 91 ans dans sa résidence de la Madrague. C'est du côté de Saint-Tropez. C'est là qu'elle avait choisi de s'installer à la fin des années 50. Sur place et en direct ce matin, notre envoyé spécial dans le Var, Pierre Bourget. Vous avez rencontré, Pierre, les admirateurs de Brigitte Bardot venus rendre hommage à cette icône du cinéma français.
Oui, et ce matin, je me trouve devant la statue de Brigitte Bardot, statue couleur or où l'actrice est assise dans un coquillage. On est là en plein centre de Saint-Tropez et depuis environ 7 heures ce matin, quelques personnes viennent se recueillir devant la star. Certains y ont déposé une bougie, d'autres y prennent une photo. C'est le cas de Laurence, cette habitante de Saint-Tropez, encore du mal à réaliser.
On s'y attendait plus ou moins, mais c'est vrai qu'on pense toujours que ces icônes sont immortelles. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que Bardot, c'est l'histoire de Saint-Tropez. Bardot a construit un petit peu l'image de Saint-Tropez et c'est une petite partie de son histoire qui s'en va.
Et la ville de Saint-Tropez devrait organiser un hommage à Brigitte Bardot très prochainement. Les habitants tiennent à saluer une femme connue à l'international pour ses films et ses musiques, mais aussi pour son engagement pour la protection des animaux. En témoigne cette lettre déposée au pied de la statue, signée par deux propriétaires d'un chat. Bébé, nous te serons toujours reconnaissants envers ton combat.
Et la lutte pour la protection des animaux, c'était donc le combat de Brigitte Bardot qui avait mis fin à sa carrière dans les années 70 pour se consacrer à sa fondation, un demi-siècle de combat et un héritage qui restera. Philippine Boulet a pu s'en rendre compte dans un centre de la SPA de région parisienne.
Abigail est venue à la SPA de Gennevilliers pour adopter un chien.
Et le papa a enfin dit oui.
Pour sa famille, la disparition de Brigitte Bardot a fait l'effet d'un déclic.
On regardait les images de Brigitte Bardot et oui, c'est parti de là du coup de regarder sur la SPA.
Une autre visiteuse, Josette, pense recueillir un chat. Elle l'affirme, sans l'engagement de Brigitte Bardot, la cause animale aurait pu tomber dans l'oubli.
Enfin, pour moi, c'est grâce à elle. Peut-être que la SPA, elle serait peut-être même pas en vie, enfin on sait pas.
Stéphane Lamarre a lui fondé une association de protection animale. Il s'est inspiré de l'engagement de Brigitte Bardot.
C'est une personne qui m'a mis le pied à l'étrier. Je l'ai découvert à la télévision lorsque j'avais 10 ans, en 1992. Et depuis ce temps-là, je marche sur ses pas. Son combat était sincère, réel, efficace. C'est ce qui m'a frappé, c'est ce qui m'a touché. Et je me suis dit, il faut que je m'engage moi aussi.
40 ans après sa création, la Fondation Brigitte Bardot compte aujourd'hui 4 refuges et mène des actions dans plus de 70 pays.
Brigitte Bardot, femme engagée politiquement, aussi proche de l'extrême droite, le RN lui a rendu hommage hier, saluant une ardente patriote, pas ou peu de réactions en revanche à gauche.
Oui, peu, Émeric Caron seulement, on sait aussi son attachement à la cause animale. Tiens, on parlera de ce côté un peu politique avec Jack Lang, on parlera de son engagement pour la cause animale, et puis on parlera de l'icône Brigitte Bardot avec Christophe Carrère, grand reporter au service culture de Paris Match. C'est dans quelques toutes petites secondes hein, sur RMC, quelques petites minutes. En attendant, l'espoir d'une paix entre Kiev et Moscou. Donald Trump veut y croire.
Le président américain a rencontré hier soir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu dans sa résidence de Mar-a-Lago. Sur place, notre envoyé spécial Naoufel El Khawafi. Les deux présidents ont salué à l'issue de ce rendez-vous des avancées. Pour autant, Naoufel, on est encore loin d'un véritable accord.
Donald Trump et Volodymyr Zelensky parlent d'une réunion fructueuse avec de nombreux progrès. Un plan en 20 points, approuvé à 90% par les États-Unis avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret. Et surtout, il reste encore des points de blocage, notamment concernant la question territoriale et celle du contrôle du Donbass. Le président américain expliquait que c'était encore complexe et que le problème n'avait pas été résolu. À l'issue de cette rencontre, une visioconférence d'une heure avec plusieurs dirigeants européens a été organisée en présence d'Emmanuel Macron. Des dirigeants européens qui sont attendus à Washington début janvier avec Volodymyr Zelensky pour poursuivre ces négociations dans l'espoir d'un accord de paix.
Et dans la foulée de ce rendez-vous, Emmanuel Macron annonce cette nuit une rencontre des alliés de Kiev à Paris. Ce sera début janvier. À retenir également ce matin l'activation du plan Grand Froid en région parisienne. Le dispositif qui touche désormais une trentaine de départements vise à protéger les sans-abri via l'ouverture notamment élargie des solutions d'accueil le jour en tout cas. 4208, c'est le nombre de condamnations pour usurpation d'identité prononcées en 2024 selon le ministère de la Justice. Information que vous révèle RMC ce matin, chiffre qui contraste avec le nombre de 40. recensés chaque année en France au nombre de 200 000. Retour ce matin sur ce rassemblement de supporters du PSG venu célébrer place du Trocadéro samedi soir à Paris. Les 6 titres du club de la capitale à base d'engins pyrotechniques, célébrations illégales, 40 personnes ont été interpellées, placées en garde à vue et 12 d'entre elles, Pierre Bazin, pourraient bien être poursuivies.
Oui, ce sont 11 hommes et une femme qui doivent comparaître ce jour, tous soupçonnés d'avoir détenu illégalement des articles pyrotechniques réservés aux professionnels et d'avoir participé donc à ce feu d'artifice clandestin revendiqué par des supporters du PSG pour fêter la bonne saison de leur club. Une action coordonnée qui a fortement agacé les forces de l'ordre. Loïc Dessertaine est délégué du syndicat Alliance à Paris.
On a des clubs de supporters qui se présentent dans des lieux très fréquentés de la région parisienne, en cagoulé, tout de noir vêtu, craquer des fumigènes et tirer des feux d'artifice au milieu du monde qui peut être présent, ça pose un grave problème de sécurité aujourd'hui. Que les supporters du PSG se réjouissent de la qualité de leur équipe et de la saison qu'ils ont faite, très bien. Le faire en pleine ville et mettre en danger la population, c'est hors de question.
En un mois et demi, c'est le troisième feu d'artifice clandestin d'envergure revendiqué par des amateurs de football qui est organisé dans la capitale.
On roulait beaucoup trop vite, peut vous coûter cher à compter de ce matin. 3 750 € d'amende, mais aussi et surtout 3 mois d'emprisonnement. C'est désormais la peine encourue pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la maximale autorisée. Excès de vitesse qui deviennent un délit. À partir d'aujourd'hui, plus de 63 000 cas ont été dénombrés en 2024.
Une place en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans le viseur du Maroc.
Et la pression sur les épaules du pays de la compétition opposée à la Zambie. 20h ce soir sur RMC. Le Maroc détruit terminé à ne pas céder à la panique et répondre à leurs supporters très critiques après le match nul face au Mali. C'est le cas du capitaine Achraf Hakimi.
On a besoin des deuxièmes hommes, que c'est les supporters, c'est les journalistes. Et j'ai pas aimé beaucoup qu'est-ce que ça passait à la mi-temps des premiers matchs, des deuxièmes matchs. Je pense qu'on joue à la maison, on a besoin de soutien de tous les supporters. On sait que c'est pas facile de temps en temps, qu'ils voulaient qu'on gagne, qu'on marque, qu'on finisse le match à la première mi-temps. On devait respecter les adversaires. Et je pense qu'on devait rester tous ensemble pour gagner cette CAN. Comme je dis, cette CAN, c'est pas facile.
Et le Maroc qui va donc tenter de rejoindre l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie qui a décroché son billet hier soir pour ses huitièmes de finale de la CAN.
Pendant les fêtes, vous ne manquez rien de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'écoute d'RMC, bien entendu. Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal de 8h30. Vous restez bien sur RMC. On va revenir évidemment sur les hommages qui se multiplient ce matin. Encore hommage à Brigitte Bardot dans un instant. Il est 8h39.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h43 sur RMC et RMC Story. On continue de rendre hommage à Brigitte Bardot ce matin. Et vous allez nous dire au 32-16, et je sais qu'on va en reparler avec les grandes gueules à partir de 9h sur RMC, RMC Story. Qu'est-ce que vous retenez de Brigitte Bardot? Ses films, ses chansons, sa personnalité, son franc-parler, son engagement pour la cause animale, bien entendu. Nous sommes avec Christophe Carrière, grand reporter au service culture de Paris Match. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC ce matin. Merci d'être avec nous d'abord, parce qu'en plus, vous avez quasiment un record de une de Paris Match.
Quasiment un record. Là, celle qui sort aujourd'hui, le numéro qui sort aujourd'hui en hommage à Brigitte Bardot, c'est la 46e couve. La 45e, c'était le numéro 4000.
Ça, c'est fou, numéro 4000.
Ouais, numéro 4000.
C'est une icône de match. Brigitte Bardot, mais c'était il y a une semaine.
Mais c'est plus, alors, c'est une icône de match, c'est une icône de la France. Donc, en fait, Paris Match, en fait, raconte le monde en général et la France en particulier. Brigitte Bardot, c'était la France. Donc forcément, évidemment qu'elle a un record de couve. Et qu'il y avait d'ailleurs on travaillait en très bonne intelligence avec Brigitte Bardot. C'est-à-dire que,
vous faisiez confiance.
Elle faisait entièrement confiance à Paris Match.
Il y avait quand même une très, très grande méfiance de la presse en général, des paparazzi en particulier, des photographes.
Oui. Oui, mais d'abord, une de ses premières couves, si ce n'est sa première couve, c'était Paris Match. Elle avait, je sais pas, elle était toute jeune. Hein, je vous parle de ça. C'était avant Et Dieu créa la femme. Et en plus, un de ses plus proches amis, un de ses piliers, c'était Christian Brincourt, qui était photographe à Match, pour Match. Et qui est mort cet été, d'ailleurs, Christian Brincourt, dont le fils a repris... pendant un bon moment le service photo de Paris Match. Bref, il y avait une liaison, c'était intrinsèque. Ouais, c'est la famille, vraiment.
C'était la famille, ouais. Brigitte Bardot qui se sentait en prison, traquée par les paparazzis,
Une exception donc pour Paris
oui,
Match.
Mais pas
pour,
pas par Paris Match.
En l'occurrence, une icône française, vous me disiez, il n'y a que Johnny qui a eu plus d'une.
Alors Johnny a eu 60 couves.
Ouais.
Mais contre Brigitte Bardot, 46. Mais le truc, c'est que Brigitte Bardot, elle a arrêté sa carrière à 39 ans. Alors que Johnny, il n'a jamais arrêté.
Ah, bien sûr.
Et donc, et malgré, bien qu'elle ait arrêté à 39 ans, donc en 1973, vous vous rendez compte, elle a quand même fait 46 couvertures parce que après on était là pour les bébés phoques, on était là. Hein, la couverture est célébrissime hein, de Brigitte Bardot avec son bébé phoque dans les bras. Et puis on en a fait d'autres. On a toujours été là pour la soutenir dans son combat pour la cause animale.
Qui représente sa plus grande œuvre en réalité. Hein, si on suit bien, elle arrête le cinéma, la chanson,
bien sûr,
et le star system, si j'ose dire, à 39 ans pour mettre sa célébrité au service des animaux.
Ah vraiment pour ça.
Jusqu'à 91 ans. Jack Lang est en ligne avec nous. Ancien ministre de la Culture, entre autres. Bonjour Jack Lang.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous accorder quelques minutes ce matin. Vous avez dit hier, vous feriez ce matin le tour du monde. C'est une icône dans beaucoup de pays. Ça n'est pas qu'en France qu'on se rappelle et qu'on rend hommage à Brigitte Bardot aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est une vérité première. C'est une des rares stars, personnages emblématiques qui soit connu dans le monde entier, du Japon aux États-Unis, en passant par l'Afrique ou le nord de l'Europe. Elle incarne encore une sorte d'idée de la France, de la femme française, de l'actrice française. Elle a réussi aussi par non seulement son art d'actrice ou de chanteuse, mais aussi ses combats, en particulier son combat qui au départ était moqué en faveur des animaux, à faire de la cause animale une cause mondiale.
Jack Lang, quand Brigitte Bardot se lance dans ce combat pour la cause animale et qu'elle interpelle sans gêne, faut le dire, les politiques, les élus, les chefs d'État, elle a rencontré tous les présidents de la 5e, ouais. À l'époque on se moque d'elle, Jack Lang.
Absolument, absolument. C'est une chose que je trouve très intéressante dans la relation entre Brigitte Bardot et puis, disons, les médias ou la population, c'est que toujours ses débuts ont été mal reçus ou moqués. Par exemple, ses débuts d'actrice par susciter le doute jusqu'au moment où elle fut pleinement reconnue, consacrée et surtout, disons, par Vadim et par Godard. Et même chose pour les animaux, c'était une sorte de moquerie de la part de tous les responsables et d'une bonne partie de la presse, disons-le. Peut-être Paris Match, bravo, y a échappé. Mais généralement, c'était la moquerie. Et elle a pourtant été finalement, il faut le reconnaître, une pionnière, une visionnaire, et c'est elle qui a contribué à cette sauvegarde du vivant et des animaux. Il faut lui être reconnaissant de cela.
Alors Jack Lang, vous avez parlé hier d'une femme sauvage, indomptable, difficile à mettre dans une case pour la gauche, en tout cas un petit peu gênée ce matin dans ses hommages, à part Émeric Caron, dont on sait aussi l'attachement à la cause animale.
On n'a pas à être gêné, disons que elle n'était pas, elle appartenait à une autre philosophie, si j'ose dire. Elle a eu des propos inacceptables.
Elle a été condamnée, on l'a dit hein, ce matin, 5 fois pour incitation à la guerre raciale.
Faut le dire, alors c'est pas parce que quelqu'un disparaît qu'on doit aussitôt le momifier. D'ailleurs, plusieurs personnes.
Non, et puis alors, Jack Lang, je vais me tourner aussi vers Christophe Carrière. C'est la première, si ce n'est une des seules, en tout cas de ce rang-là, vedette à s'afficher sans gêne avec le Front National à l'époque, le Rassemblement National aujourd'hui.
C'était son mari surtout.
Dernier mari.
Mal, il était, c'était avec qui elle est restée quand même 33 ans. Donc c'était un cadre du Front National, hein, pas du RN. Hein, donc
c'est. Fait partie du personnage.
Alors ça fait partie du personnage. Quel est fait ces écarts de langage? Et qui ont été condamnés, hein, faut le dire et le rappeler. Cela dit, si vous regardez le documentaire Bardot réalisé par Elora Thévenet, vous verrez que dedans elle présente ses excuses.
Oui, elle est
vraiment, mais
des regrets sur la
voilà,
forme,
comme quoi elle a rien contre les musulmans ou quoi. C'est juste, c'était au moment de l'Aïd, de la même manière qu'au moment en 62, elle disait que les Français étaient des barbares dans l'abattage, de la même manière que les Canadiens étaient des barbares pour tuer les bébés phoques.
Merci Jack Lang, ancien ministre de la Culture, d'avoir pris quelques minutes pour rendre hommage à Brigitte Bardot ce matin. Évidemment, alors on a parlé de cette proximité avec Paris Match. Il y a aussi la ville de Saint-Tropez. Moi, je voulais absolument qu'on en parle quand même. Parce qu'on parle souvent du petit... Alors, elle n'a pas fait Saint-Tropez, mais Saint-Tropez n'a pas fait Bardot, mais les deux ont...
On a explosé ensemble. Il y a une petite ville aussi, j'ai vu hier, j'ignorais, c'est incroyable. Vous savez, c'est un fait international quand même, la mort de Bardot. Hein.
Bien sûr.
Et j'ai vu qu'au Brésil, j'ai vu ça hier soir, il y a une petite ville au Brésil, une petite ville balnéaire qui est devenue aussi célèbre que Saint-Tropez apparemment. Et il y a la statue aussi de Bardot face à la mer.
Comme à Saint-Tropez.
Oui, exactement pareil. C'est incroyable, quoi.
Je ne le savais pas. Alors, Christophe Carrière, ce que vous avez pu aussi explorer avec Brigitte Bardot au fil des années chez Paris Match, je parle pas uniquement de vous, bien entendu, il y a vos prédécesseurs chez Match, c'est une forme de quoi de féminisme première génération. C'est la libération sexuelle, Brigitte Bardot.
Attendez, vous rigolez, vous, c'est même plus que ça. Moi, je dis que c'est du féminisme ontologique. C'est-à-dire, c'est vraiment, elle ne revendique absolument pas d'être féministe, puisque
C'est même très.
Il y a un bébé CEDER. Ce qu'ils appellent, c'est sorti chez Fayard, là, il n'y a pas longtemps, un bébé CEDER, vous savez, avec,
La forme de dictionnaire amoureux de Brigitte Bardot.
Voilà, c'est ça, voilà, c'est un peu ça, mais c'est elle qui l'a écrit. Et c'est à la main. C'est écrit à la main comme elle n'utilisait pas d'ordinateur. Donc, tout est écrit à la main. F comme féminisme, à sa pique, hein, elle a juste marqué réunion de femmes imbaisables. Vous dites, ah ouais, quand même, c'est, de sa part, c'est quand même, elle avait la formule qui fait mal. Alors que c'était évidemment, c'est une des pionnières sur le féminisme. C'est quand même quand elle est enceinte de Jacques Charrier, qu'elle a Nicolas dans le ventre. Pardon, mais ce qu'elle dit, c'est assez à l'époque, c'est assez révolutionnaire.
Elle
ne veut pas de cet enfant. Elle reconnaît avoir fait deux IVG déjà. Elle veut se réapproprier son corps. Et elle n'a pas l'instinct maternel et elle le revendique. C'est pas une tare,
c'est pas rien à la France des années 60.
Voilà, c'est ça. C'est
pour là qu'on incroyable. Quand on dit Brigitte Bardot, parce que c'est vrai que moi je retenais la libération sexuelle, les corps dénudés.
Évidemment, dire, mais il y a
cinéma,
ça
y a
aussi.
Y a la, mais y a vous la, avez raison, il y a l'IVG aussi.
Il y a la réappropriation du corps par la femme et à l'époque, franchement, je vous assure que c'est pas évident.
On a une icône qui a refusé la chirurgie esthétique.
Alors ça, ouais, ça, c'est génial.
C'est
un exemple,
aussi.
Mais elle est exemplaire là-dessus. Je sais plus qu'elle avait une bonne formule là-dessus en revanche, plus meilleure que pour le féminisme. où elle disait que je sais plus, mais ouais, que en fait les femmes se faisaient de la chirurgie esthétique parce qu'elles trouvaient que les rides ridicules, mais en fait, quand elle faisait de la chirurgie esthétique, c'est elle qui était ridicule, quoi. Voilà, avec ce visage déformé. Alors que elle assumait pleinement ses rides. Et encore une fois, c'est pour ça aussi, c'est pas du tout pour ça, pour des raisons esthétiques, qu'elle a arrêté le cinéma.
Elle sera en une de match cette semaine.
Ça y est, elle y est.
Deuxième semaine consécutive, si
évidemment,
j'ose dire.
46e une. Vous savez quoi, à mon avis, c'est pas la dernière.
Hein. C'est vrai?
Oh, bon, à mon avis, on en refera. Brigitte Bardot, je vous dis, c'est l'histoire de la France, mais vraiment, quoi.
Alors, est-ce que, vous savez, quand on dit c'était mieux avant, est-ce que c'est ça le avant? Est-ce que c'est la France d'avant? Je sais que c'est un débat des grandes gueules. C'est pour ça que je tease le débat.
Je déteste cette expression. Vraiment.
C'était mieux avant.
Et pourtant, j'ai plus de 60 ans, je déteste l'expression c'était mieux avant. Parce que dans 30 ans, vous verrez qu'on dira, c'était mieux en 2025.
Alors, la France de Bardot, ce sera au menu des grandes gueules. C'est pour ça que je disais avec Alain Marchal et les grandes gueules, ce matin. Merci beaucoup, Christophe Carrière.
On va le lire.
Tu sais, même sans le lire, j'aimerais pas le dire comme ça. Vous êtes quand même des confrères. Mais même sans le lire, on va l'acheter. Parce que c'est collector.
Évidemment,
c'est collector. C'est la une de match.
Vous en avez deux en kiosque là, avec Bardot.
Carrière, grand reporter au service culture de Paris Match. Merci beaucoup. Et bon courage, parce que vous allez être sollicité dans les heures et les jours qui viennent. Il est 8h54, les grandes gueules à suivre. On revient demain matin en direct dès 7h pour Apolline Matin, pour le morning dès 5h avec vous, Martin Bourdin et Pascal de la Tour du Pin. Très bonne journée à tous, 8h54.
RMC, Apolline Matin.